Salut à toutes et à tous,
bienvenue
pour un nouveau podcast de la rédaction.
Exact.
Le premier podcast de la saison 12 déjà.
Et oui, saison 12,
ça passe tellement vite.
Oh, c'est trop, je me casse.
Mais personne n'a vieilli évidemment dans nos rangs. Vous
surtout
avez reconnu parmi nous si vous êtes premium et en vidéo, quoique là peut-être pour cette première, je sais pas. En fait, on va réfléchir.
On va réfléchir à peu près 2 minutes 50 et on vous dira tout ce qui se passe.
Est-ce qu'on va l'offrir ou est-ce qu'on va pas l'offrir, mon cher Julo?
On va faire ce que tu veux, c'est toi le chef des podcasts.
Ok, d'accord, je pense qu'on va l'offrir. Bref.
Mais c'est pas de votre faute.
Avec moi aujourd'hui, nous avons évidemment Traz.
Salut, ça va tout le monde, bonjour.
Nous avons évidemment
forme, c'est la teuf. Ouais, génial, génial. Ça va toi?
Donc Christophe de Chavannes avec nous. Julo. Julo évidemment.
Bonjour à tous.
Et Thomas. Thomas qui a rejoint nos rangs.
Exactement,
il y a peu,
comme vous le savez tous,
de manière officielle et totalement
enrôlé
sur place, qui est une des raisons pour lesquelles
enroulé même je dirais.
Ouh.
Et c'est parti.
Ce racisme ordinaire.
Ouais, ça va parler de Padam et des trucs comme ça.
Exactement.
De ça, c'est mauvais en été et tout ça. Bon bref.
Exactement.
On va éviter ce genre
et
de choses.
Les gros pensifs.
Ouais, les gros pensifs.
Et c'est je viens de comprendre. Ok.
Ouais.
Ça y est, je vais toujours aussi vite.
Il n'y avait pas beaucoup de roues.
Et donc, Thomas, enroulé, je comprenais pas. D'accord. C'est
bon. Thomas est une des raisons pour lesquelles évidemment ce podcast est en retard parce que voilà, on a une semaine de retard.
L'humanité va mal.
Voilà. En fait, c'est pas vraiment dur.
C'est parce que tu m'as vendu il y a 30 secondes.
Oui, je sais.
Quel focus, mec.
Parce que tout simplement.
C'est pas qu'on n'avait pas envie de vous
retrouver. Vous nous l'avez demandé à corps et à cri. Hein. Pendant tout l'été, on a reçu vos messages. Là, début septembre, c'était pareil.
On
était limite agressés. Moi, je sais que dans la rue, par exemple, il y a des gens qui sont venus me voir. Alors, le podcast.
Moi, on m'a cassé la gueule.
Toi, t'as cassé la gueule.
Au Japon ou pas?
Bah, c'était un mime. Moi, j'ai eu pire que ça. Hein. Ah, bon, on m'a poussé sur les rails du métro. Hein, ouais, on m'a dit, ah là là, pas de podcast. Bah tiens, pour la peine.
Donc,
de,
du coup,
pas de
paf, paf, on a mis les petits plats dans les grands. On s'est dit, hop, on lance le podcast aujourd'hui.
Exactement. Puis il y avait le TGS évidemment. Qui
les podocastos, même, je dirais.
Un petit peu retardé parce qu'on avait envie d'avoir Julo avec nous. Julo qui n'a pas
sympa.
Du tout.
Et oui,
le décalage horaire en pleine gueule en plus. Qui est en pleine forme.
Bah plutôt, ouais. C'est
En pleine forme.
Et qui, au moment où on enregistre, en plus.
Je m'endormirai pas pendant ce
et d'autant plus en pleine forme que le PSG joue ce soir.
Perdu. Pardon, va jouer.
Pour l'instant, il a une mine rayonnante.
Pour l'instant.
Si ça va durer.
Voilà, et un joli t-shirt Olivier Tom qu'il a trouvé directement sur
le l'escroc, mec.
J'ai ramené
ça me débecte.
Le meilleur
non, le meilleur pour la fin. Ouais, c'est
non,
fini.
Mais le meilleur goodies du TGS, quoi.
C'est vrai,
le
c'est
t-shirt.
Vrai. Mais tu crois que ça, le lavage, ça va passer?
Vous trouvez
ou pas
qu'il est juste magnifique?
Si, il est splendide, il te va super bien.
C'est
franchement,
pas du tout mon genre de porter ce genre de t-shirt.
La coupe est
parfaite.
Parfaite. Elle
va
mon
beat, c'est ça?
Ah non, je pense que depuis.
La coupe est parfaite.
Et pour gagner ce t-shirt, j'ai dû faire un perfect dans la démo.
Ouais.
Mais arrête, on t'a vu des tricher.
J'ai fait un perfect.
Attends, t'as joué à la démo d'Olivier Tom en VR?
Eh oui.
T'as joué à la démo d'Olivier Tom en VR?
Eh oui.
T'as joué à la démo d'Olivier Tom en VR?
Bah oui, la vidéo même sur le site internet de Gamebox.
C'est vrai. 2000.
C'est exact.
Petite dédicace.
C'est l'intro la plus longue de l'histoire des podcasts.
Non, pas du tout. Elle ne fait pas du tout.
Je pense que le podcast va faire 4 heures.
Oui, il y a
assigné. Ce podcast, donc, au sommaire, nous allons revenir un petit peu sur cet été, même beaucoup sur cet été, puisque c'était.
Quel été?
Nous posons la question. Un été de ouf malade au niveau des sorties.
C'est vrai,
bien sûr.
On a quand même été arrosé en termes de jeux comme rarement à cette période. On reviendra évidemment sur la Gamescom et le TGS pour se demander si c'était pas quand même des événements un peu décevants cette année. C'était déjà un petit peu le cas avec le 3. On s'était mis d'accord tous ensemble pour dire que le 3 était plutôt moyen.
Bah, par rapport aux années
c'était
précédentes.
C'était pas un cru gigantesque.
Voilà,
c'était
ouais,
quand même,
non, mais
c'était
après,
quand même c'était... mieux que la Gamescom et le TGS.
Absolument. Et puis nous terminerons évidemment avec du football.
Du football
avec l'affrontement de FIFA et PES. Et nous vous expliquerons pourquoi cette année, eh bien, PES 2018 est repassé devant FIFA. C'est la remontada de PES.
C'est vrai.
Qui était.
Selon nous. D'ailleurs, j'ai pas été voir sur les autres sites concurrents.
C'est assez sociaux, équilibré de manière
d'accord.
générale. Je crois qu'il y a peut-être.
Pour
non,
en avoir discuté
plus.
Avec Pouillot de Gamekult à la TGS, je crois qu'il est plutôt pas d'accord avec nous. Parce qu'il considère que.
Non,
c'est
mais Pouillot, on va lui mettre 3 baffes et il va vite.
Ouais, voilà,
je sais pas sûr. Non, c'est franchement non.
Si, si.
Non,
si,
ça
si.
Sert à rien.
Pouillot,
pas de violence. Pas de violence, c'est les vacances. Et oui, non, mais c'est vrai qu'on a eu. Bon,
on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, évidemment. Et avant de passer eh bien, au premier thème de la semaine, nous allons. Eh bien, nous pencher vers sur le win
nous
et le fail.
Mais pour le coup, de la semaine, pas de l'été.
De la semaine, absolument,
voilà,
oui.
Parce que là, on commence directement avec une semaine.
Alors, le fail, c'est
une semaine.
Là, on fait la semaine. Après, on parlera de
d'accord.
l'été. Maintenant, on fait la semaine.
Très bien.
Compris?
Très bien.
Capiche.
Compi.
Très bien. Copy?
Compi.
Ah, compi. D'accord.
Capiche,
le win de la semaine.
Japonais.
Alors, j'avais envie, personnellement, de mettre un cosplay en valeur.
Oh non,
le cosplay
de merde.
De C21.
Non,
par...
mais attends, mais t'es relou, toi.
Ouais, je sais, mais j'y peux rien. Moi, Sosenka, qui est une artiste dont vous voyez sûrement les vidéos passer souvent sur Facebook,
n'importe quoi.
Où elle se déguise en Jack Sparrow et à la fin, c'est Johnny Depp. Vous vous dites comment c'est possible qu'une fille.
Donc, c'est ça
fille
le win
arrive,
de la semaine.
Bah, non, c'est pas ça le win de la semaine.
En fait,
j'avais envie juste de
la
montrer.
Surtout sur le PC de Plume.
Non,
qui regarde malheureusement ses photos.
Absolument pas. Elle avait déjà fait un C18 aussi.
Avec Katy Perry.
Un C18 de folie.
Ah, je l'aime bien en haut à gauche, par contre.
Enfin, elle est juste incroyable. Je sais pas ce qu'elle fait dans la vie parce que bah, pour réussir à faire ce genre de choses, il faut avoir un fric.
Elle fait des cosplays.
J'imagine. Oui, non, mais en plus du cosplay.
Bah, des cosplays.
Ah, tu penses qu'avec juste le cosplay, elle se finance, toi ?
Bien sûr.
Moi, je ne pense pas.
En tout cas, elle aime bien Dragon Ball.
Elle aime beaucoup Dragon Ball et elle le fait très, 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 très bien. Et donc, voilà, je voulais le mettre en win, mais en fait, on m'a dit non. On m'a dit qu'il fallait passer la parole à Julo pour qu'il nous parle du win de la semaine.
Du vrai win, je veux dire.
Et le
vrai
win. Oui, alors, win de la semaine, nous avons.
Il est tout de suite moins charmant, d'ailleurs, je trouve.
Il est moins charmant.
Même si son accent français peut faire craquer.
Quand il parle anglais, ouais, tout à fait. Bon, on va parler d'Yves Guillemot et d'Ubisoft, qui, cette semaine, on l'a appris lors d'une une nouvelle AG, une assemblée générale, s'est déclaré fort satisfait et a parlé même d'une assemblée générale qui était une vraie victoire. Alors, il faut savoir que désormais, Vivendi possède une grande part d'Ubisoft.
Des actions d'Ubisoft,
et voilà, des actions, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Merci beaucoup, Plumeau.
Mais de rien, adieu, merci. Je suis là pour finir tes phrases.
Et qu'il est toujours pas pour autant. Au board, quoi, comme on dit, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, ils sont toujours pas intégrés.
Et donc, du coup, pour chacune des décisions, ils ont décidé de s'abstenir de vote. Et pourtant, tout est passé du côté d'Ubisoft. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout le monde était uni derrière la voix d'Yves Guillemot, son actuel patron. Donc voilà, ça a été une sorte de revers pour Vivendi, une vraie victoire pour Ubisoft. Malgré tout, c'est une bataille qui est gagnée. Là, c'est évidemment pas la guerre, et il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer. Cela dit, on peut dire que ça a véritablement renforcé la position d'Yves Guillemot et affaibli celle de Vivendi, parce que avec une telle cohésion, le fait que Vivendi fasse une OPA, donc une offre en public d'achat, d'ici la fin de l'année reste une possibilité forte, mais pourrait affaiblir la société elle-même et pourrait être donc un mauvais move pour eux.
Oui, parce que si tu acquiers une société où personne veut de toi, gens peuvent se tirer, tous les créatifs s'en vont,
l'action peut plonger, la gueule, etc. Donc voilà, il commence à se murmurer que peut-être du côté des conseils de Vivendi, on choisirait
ailleurs,
plutôt
en fait.
D'investir ailleurs avec les gains qui ont été faits, parce qu'il faut rappeler
l'action d'Ubisoft,
a décollé. Donc Yves Guillemot s'est renforcé en tant que leader de son entreprise qu'il a créée.
Ils ont racheté des parts spéciales aussi pour justement
malgré tout. Malgré tout, d'ici peu, les parts de voix de Vivendi vont augmenter.
Et aux alentours de 30% en novembre.
Voilà, donc, et là ça va s'annoncer plus problématique. Donc, à voir si Vivendi aura une posture agressive ou une posture plutôt passive ou dans la sortie, même, je dirais. Donc, ça va être intéressant à suivre. Mais en tout cas, oui, alors s'il y avait un win cette semaine, on peut clairement déclarer qu'il s'agit d'Ubisoft et de son leader charismatique.
Charismatique, Yves Guillemot, voilà. Qui je sais pas, en cosplay, je sais pas, j'imagine pas trop. Bon, ça c'est une autre histoire.
SNK, c'est ce qu'elle en pense. À venir le cosplay d'Yves Guillemot par SNK.
Exactement. Mais
les semaines et les mois à venir, en tout cas, seront intéressants.
Il y a un film avec The Manx, hein, où il y a un cosplay d'Yves Guillemot qui est en cours de réalisation. Là, je ne sais plus ce que c'est. Vous vérifierez sur l'internet chez vous.
Ouais, j'ai vu passer l'image.
Le maquillage de The Manx fait énormément penser à Yves Guillemot.
Bref, quoi. Ouais, okay,
le
super.
Fail de la semaine, c'est malheureusement une très mauvaise nouvelle.
La chambre chinoise.
Du côté de nos amis de Chinese Room, les développeurs de D-Rester et de
Everybody's Gone to the Rapture.
Malheureusement, ça va pas très fort.
Et non, ça va pas fort du tout.
Comme
en fait, le patron du studio qui s'appelle Dan Pitchbeck a donné une interview à Eurogamer dans laquelle il expliquait en fait ce qui se passait au sein du studio. Et ils ont aussi publié un post sur le blog de Chinese Room expliquant qu'en fait c'était très 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 compliqué pour eux depuis le début de l'année, en fait, que lui avait souffert de soucis de santé, que le crunch time autour du jeu sur lequel ils étaient en train de travailler avait mis tout le monde par terre, et que continuer à gérer une petite entreprise qui les dépassait un petit peu dans ce contexte-là, c'était devenu très 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 compliqué. Et en fait, concrètement, pour The Chinese Room, malheureusement, ça a été un licenciement massif de la quasi-totalité du studio. Donc c'est 8 personnes en fait qui ont été mises à la porte alors que le studio était encore en train de travailler sur un jeu VR. Et le studio ne ferme pas ses portes. C'est la petite note positive qui ressort à la fin du billet qui a été posté sur le blog. C'est une parenthèse, c'est une pause. On ne sait pas combien de temps elle va durer, on ne sait pas quand l'action va reprendre. Mais pour l'instant, voilà, il ne reste plus que les fondateurs du studio qui vont continuer à travailler pour sortir So Let Us Melt, qui est leur prochain jeu donc en réalité virtuelle. Et pour le reste, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, une chose qu'ils ont déclarée dans l'interview qu'ils ont donnée à Eurogamer, c'est que visiblement, les Walking Simulator, pour eux, c'est terminé. Ils veulent se consacrer à autre chose, ils veulent travailler sur des jeux plus ambitieux qui vont sortir un petit peu de ce genre-là. Et c'était l'un des problèmes aussi, c'est que pour l'instant, ils n'arrivent pas à obtenir de financement pour lancer un projet qui soit un petit peu plus conséquent et un petit peu plus ambitieux que ce qui s'était fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, on espère les revoir très bientôt, mais a priori dans les prochains mois on ne devrait plus entendre parler d'eux, puisqu'il faut que le temps que la société se restructure et sans doute réembauche un petit peu quelques personnes en son sein. Voilà.
Mais donc là c'est plutôt The Chinese comment on pourrait dire, une toute petite pièce, The Chinese Kajibi en fait, là, maintenant qu'ils sont plus beaucoup.
Je t'ai pas senti très inspiré sur ce.
Non, je suis pas très inspiré, en fait, je suis un peu fatigué aussi. Hein.
Tu étais en train d'improviser en même temps qu'il parlait, quoi.
Non, je cherchais le mot Kajibi, en fait.
Qu'est-ce que je pourrais dire? The Chinese...
Kajibi, c'est tout ce qui m'est passé par là.
C'est la fin du buffet, voilà.
Pas mal.
Je trouve pas ça très...
C'est pas très, très reluisant.
Je trouve ça un peu réducteur de je sais pas s'ils l'ont dit comme ça.
Exactement.
Mais de dire que ça manquait d'ambition de faire des Walking Simulator, moi je trouve ça...
Non, mais d'ambition peut-être d'ambition dans le sens où est-ce que tout le monde va acheter des Walking Simulator aujourd'hui? C'est peut-être ça aussi, hein.
D'ambition sur le marché. Sur le marché, tu vois.
Ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs. C'est vraiment comme ça que eux l'ont présenté. Voilà, ils veulent se consacrer. Content,
mais non, parce que j'adore les Walking Simulators.
J'adore aussi.
Et je pense que eux ont plus plaisir à en faire, mais.
Non, mais ils veulent passer à autre chose.
Ils veulent peut-être pas être enfermés aussi dans ce style-là. Ils veulent passer à autre chose. Ils se sont fait une renommée là-dessus. Et c'est l'un des trucs que disait le fondateur du studio, c'est que ils ont eu très rapidement du succès en fait, auquel ils s'attendaient pas, et ils ont dû très vite monter un studio alors que c'était juste des créatifs qui avaient envie de proposer des choses, et ils se sont retrouvés très vite à devoir gérer une entreprise, ce qui était
c'est comme nous quand on a fait Gameblog.
Ouais, on était dépassé par les événements événementiels.
Non, mais...
Alors que maintenant vous êtes des pros hyper rodés.
Ah, maintenant, exactement. On est sorti du Walking Simulator là.
Donc c'est plus ambitieux, du coup.
C'est la tième simulateur. Dual stick là.
Ouais.
Dual stick shooter. Bref,
quant à Poufy.
Le thème numéro 1 de cette semaine, messieurs dames.
Le thème numéro 1 de cette semaine.
Il s'agit de.
Le thème numéro 1 de cette semaine.
Il s'agit de.
Se gagne le.
L'été 2017.
C'était
un été de ouf malade au niveau des sorties. On va faire rapidement un petit récapitulatif.
Et des entrées
aussi. Toutes les sorties. On parlera de l'actu juste
toutes
après.
Toutes les sorties importantes ou qui ont connu du succès.
Exactement, de toutes les sorties. Et on parlera de 4 jeux qui nous ont marqué plus particulièrement. Voilà. Parce qu'on
chacun choisira.
Voilà, exactement.
C'est ouf.
Évidemment, on parlera pour Romain pour un de ces jeux. Je vous laisse deviner lequel. Mais bref. Crash Bandicoot, Ensign Trilogy, Splatoon 2, Hellblade, Sonic Mania, Les Piliers de la Terre, Uncharted The Lost Legacy, Yakuza Kiwami, Mario plus Lapin Crétin... Kingdom Battle, Observer, Lone Echo, Qui es-tu, Destiny 2, Metroid Samus Returns, Dishonored la mort de l'Outsider, ou Outsider, God of War, Marvel vs Capcom Infinite,
exact.
Divinity, Original Sin 2, ça fait quand même
beaucoup de jeux,
de bons jeux.
Oui, parce que là on en a sorti que les meilleurs. Hein,
exactement,
voilà.
Ça fait quand même déjà beaucoup
parce que la carte est jeu pour une seule respiration. Bravo.
Exactement.
Et alors Plumeau,
oui.
Toi, quel mec, jeu retiens-tu dans intégrant. Tout ça, toi, de ton vécu à toi que t'as...
Alors, comment on m'a empêché de faire Uncharted? On m'a dit non, ce sera Traz, et que Traz m'a plaqué au sol en me cassant le bras. Ouais. Ce serait Hellblade en fait, le jeu de Ninja Theory, qui est quand même un des beaux, une des plus belles surprises de l'été, je pense, même si c'était attendu.
Non, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien.
Non, personnellement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien.
Parce que c'était le hit de l'été.
Exactement. Le hit de l'été,
c'est
non.
Probablement,
non, je ne pense pas que
c'était
le jeu
le plus marquant de cet été.
C'était le West Island de 2017.
Non, je sais pas, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, j'ai été très surpris par la façon dont Ninja Theory a mis en place ce jeu qui. Dans les premiers éléments qu'on avait vus, pouvait se sembler juste être un beat'em all avec une caméra derrière l'épaule, sans plus quoi. Et en fait, c'est un jeu narratif de très très belle envergure,
une grande profondeur, ma foi,
qui est du niveau d'un triple A, je pense, pour pas mal de choses, et qui aborde la folie, la schizophrénie de manière vraiment incroyable dans un contexte viking. Combat d'une jeune femme celte qui a été enfin dont le village a été rasé par les Vikings et qui va essayer d'aller récupérer son amant dans le royaume des enfers. C'est ultra bien amené, c'est ultra immersif.
C'est vachement joli.
Si vous jouez au casque, vraiment la spatialisation du son est exceptionnelle. Le jeu d'acteur de l'héroïne, donc l'actrice principale Melania Jurgens, qui est à la base est juste monteuse chez Ninja Theory, et il est merveilleux aussi. Et c'est vrai que c'est incroyablement beau. C'est une expérience qui prend au trip du début à la fin, qui a quelques imperfections, mais vraiment qui est secouante, quoi, du début à la fin, vraiment. Et je le conseille à beaucoup beaucoup de monde. Alors je crois que le jeu était le titre le plus téléchargé du PSN au mois d'août.
Oui,
c'est largement mérité, et j'espère qu'il va motiver les studios qui ont envie de faire des jeux on va dire qualité triple A, mais pas avec le budget d'un triple A, que ça va les motiver justement à aller dans cette direction. Moi je pense que le résultat,
c'est comme ça qu'ils présentaient leur truc, hein, ouais. C'est un jeu indépendant triple A.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moyens importants qui sont mis derrière, le rendu est de ce niveau-là, mais peut-être que dans les mécaniques, peut-être que dans la complexité du tout, c'est pas exactement ce que offrirait un triple A, mais en tout cas, et puis c'est condensé aussi, hein, c'est du 8-10 heures de jeu, mais le résultat est vraiment bluffant. Voilà, c'est sur PS4 et PC.
Bravo Ninja Theory.
Et bravo Ninja Theory, j'espère qu'ils vont continuer dans cette voie.
Et en plus,
après avoir fait des fours, notamment.
Évoqué dans le jeu vidéo.
Absolument,
quoi.
Après avoir fait des fours comme Devil May Cry notamment, je pense que ça a dû les requinquer un
grave
petit peu.
De la gueule en plus. Hein.
Qui était génial.
Devil May Cry,
hein. On peut le dire, hein. Franchement, c'était un super jeu. Mais voilà. Ça ne marche pas à tous les coups.
Super revisite.
Ouais, absolument. Donc voilà, Hellblade pour moi. Et maintenant, on va passer à Traz.
Quel est le jeu qui t'a
avec
marqué
surprise.
Cet été,
Traz? Oh là là,
bah, Uncharted, c'est surprenant. Lost Legacy, forcément.
Oh.
Un Uncharted.
Ah bon, on s'y attendait pas.
Évidemment.
Ah ouais?
Ouais.
Mais pourquoi?
Bah parce que pour moi, c'est le jeu du siècle. Voilà, c'est
ah,
tout.
Ah bah voilà.
Non, mais c'est un spin-off, évidemment.
Attends, parce que je regarde le nom du développeur, Naughty Dog.
Ah ouais,
c'est bizarre. D'habitude, t'aimes pas trop leur jeu.
Ouais, mais pourtant il y a plein de gens qui sont partis de chez eux, dont Balestra, mais ouais. Je pense que la qualité est toujours là, hein, parce que les gens qui bossent là-bas sont toujours aussi bons et
bah, visuellement, ils savent
s'entourer.
Même,
de toute
c'est
façon,
peu, c'est quasiment plus beau que.
Moi je le trouve plus beau que Uncharted 4.
Uncharted 4,
mais ça c'est un petit peu normal aussi.
C'est
un petit gap technique, technologique.
Ouais, mais enfin ils étaient déjà tellement
beaux. Après,
c'est quand même.
Et sur PS4 Pro évidemment, c'est
juste hallucinant comme c'est beau quand même. C'est...
Ah mais c'est magnifique, hein, vraiment magnifique.
Mais qu'est-ce que t'as aimé en dehors des graphismes?
Bah tout, je veux dire le duo Nadine Chloé, qui est extraordinaire, qui change vraiment de. Nathan Drake et des autres acolytes qu'on
Est-ce
a pu voir en 4 notamment.
Moins, du coup.
Comment?
Est-ce qu'il y a moins de fuck? Oh god, oh fuck!
Oui, forcément, logique.
Bon, pas
mais
trop, hein. Elles sont
ouais,
y vont quand même. Hein,
ouais, mais
un
petit
peu
moins que. Bon, bref. Que Sully surtout, c'est donc. Bref, donc je disais que oui, non, mais c'est magnifique. Je veux dire, c'est, tout se passe en Inde, etc. Le duo est superbe, évidemment, avec les nanas qui changent énormément de ce qu'on a connu avant, mm-hmm. Mais c'est hyper rythmé. Évidemment, le jeu il est beaucoup moins long qu'un Uncharted 4, hein, c'est un spin-off, donc logiquement machin, mais vraiment, on en a vraiment pour son argent. Et il y en a pas mal qui disent qu'ils préfèrent ce jeu-là à Uncharted 4. Moi, je sais pas, je sais pas, je suis encore un peu circonspect.
Ah bon ? Ah oui, je trouve que le rythme est plus.
Bah tout le monde dit un petit peu ça. Moi je sais pas.
Le rythme plus soutenu, puis même le duo, moi je sais pas, le duo, je le trouve rafraîchissant, quoi. Mmh. Et
oui, voilà, c'est
ça
parce que c'est bien la seule chose surtout, qui en fait. Te rafraîchit en fait, parce que si on peut se permettre une critique quand même au sujet d'Uncharted, moi je l'avais déjà ressenti avec le 4 perso.
Ah, attention.
C'est que c'est une formule qui tourne quand même. En
bah après le gameplay, oui, il est.
Et qui a pris un peu de rythme, quoi. J'ai envie de dire.
Ouais, mais complètement.
Autant c'est au top du top de tout ce qu'on peut imaginer en termes visuels, autant dans le fond c'est quand même.
Oui, il n'y a rien de nouveau.
C'est assez éculé, oui. Encore
mais
une fois,
que tu vois moins les longueurs, justement.
Depuis Uncharted 2,
voilà,
qui avait posé des bases hallucinantes.
Ouais, non, mais c'est, moi je te dis, c'est plus. Je trouve
mais
ça plus
l'histoire
plus
est vachement bien faite aussi.
Plus condensé.
C'est
aussi,
plus condensé.
C'est normal, hein, c'est un petit format entre guillemets.
Cela dit, quand t'as une PS4, c'est quand même dommage.
Les énigmes, elles sont mortelles.
Oui, c'est ça, les énigmes, effectivement, elles sont vraiment, vraiment bien. Après, voilà, c'est tout ce qui tourne à la mythologie hindoue, etc.
Qui est ta spécialité?
Exactement, tout
voilà.
À fait.
Tu es un grand fan de Vishnu.
Ah bah moi j'adore les civilisations anciennes de toute façon.
Oui, parce qu'il y avait des extraterrestres, c'est pour ça que t'aimes bien.
Ouais, exactement.
Et qu'eux ils savaient que la Terre était plate à l'époque.
Voilà. Exactement. Ouais. Flat Earth.
Voilà.
Hashtag. Donc voilà, bon bah ça reste un petit chef-d'œuvre, hein, forcément. Et puis voilà, on voit l'image avec la Jeep là.
Ouais,
ça,
le premier gros environnement qui est un monde
exactement.
Ouvert, un mini monde ouvert où il y a plein de petits trucs à
Qu'est-ce
faire.
Qu'est-ce que c'est bien foutu, ouais. Franchement, là c'est, on prend son pied.
D'ailleurs, c'est magnifique. C'est le cas à l'écran au moment où on parle. T'avais Chloé qui était pendu.
On était raccord là, il n'y a pas de souci.
Donc, ouais.
Non,
ouais,
vraiment,
sacré jeu.
C'est très 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 bon. Bah, si vous l'avez pas fait, allez-y. Hein.
Ça me fait penser qu'on devrait
ne
peut-être,
vous priez pas surtout.
On devrait se poser la question de savoir si les jeux, si aujourd'hui on devrait pas avoir des jeux plus souvent de cette envergure-là.
Mais peut-être que Naughty Dog va pas se lancer justement des
sur des
formats comme ça. Hein, c'est possible. Hein. Plus, parce que là, ça fonctionne très bien. Hein,
parce que là, on parle d'Hellblade, 8-10 heures. Uncharted, The Lost Legacy.
Moi, je vois bien.
8,
je vois bien Sully et le frère de Nathan Drake dans un autre spin-off. Enfin, j'aimerais bien quoi. Ça serait
Sully et Sam.
Sully et Sam, ouais, voilà.
Ah, ça serait franchement. Pas con, hein. Ouais, c'est pas mal ça comme duo.
Bah, franchement, ouais. Et vu ce qui se passe à la fin du 4, enfin voilà, tout le monde y a joué, j'imagine. Franchement, moi, ça m'étonnerait pas. Mais bon, après, je sais pas s'ils vont poursuivre sur cette voie ou.
Mais faudrait qu'ils se renouvellent un peu après, sur certains trucs. Mais bon.
Oui, évidemment.
Ça, c'est une autre histoire.
Évidemment.
C'est une autre histoire. On pourrait vous parler de Yakuza Kiwami parce que ce serait forcément le jeu de l'été de Romain. On ne le fera pas, mais on salue Romain, qu'on embrasse.
Tu sais que je vais jouer à.
Je vais jouer, je vais te dire Kiwami.
Si, si.
Après avoir testé le jeu.
Non, mais j'ai décidé de me. Ouais, c'est ça. Parce que le fait d'avoir joué Yakuza Kiwami 2 au TGS, je me suis dit quand même, ils ont vachement refait et tout. Et à l'époque, j'avais un peu bloqué parce que c'était. C'était un peu chiant, il y avait des murs invisibles partout, c'était pas très beau, etc. Là, j'ai envie de redonner une chance à Yakuza en fait.
C'est vrai ?
Ouais.
Eh ben écoute,
t'as redonné une chance au produit.
Rendez-vous dans 5 ans quand tu auras enfin joué.
Julo,
je reste sur toi parce qu'il y a un autre jeu que lui. Alors, cette fois t'as commencé à temps.
Quel est le jeu qui m'a marqué cet été ? Moi, c'est Destiny 2 personnellement.
Absolument. Sorti le 6 septembre dernier sur Xbox One et PS4, il arrivera en octobre sur PC.
J'avais joué au premier pas très longtemps avant que ça me gave parce que je trouvais que ça tournait vite en rond parce que le contenu était quand même assez famélique à l'époque.
Puis c'était vide.
C'était un peu vide, c'était un peu répétitif, etc. Il n'y avait pas vraiment de solo ou voilà. Et comme j'avais beaucoup aimé quand même, l'univers, l'esthétique, la qualité du travail de Bungie de manière générale, parce que sans être un fan hardcore de Halo, bah, j'avais adoré aussi jouer à Halo, pas en multi hein, personnellement, mais c'était plus pour les modes solo. Et donc là, j'ai commencé Destiny 2 et je l'ai trouvé vraiment, mais quand même beaucoup beaucoup mieux que le premier et à tous les niveaux. Alors d'abord
niveau 1
c'est encore plus beau. C'était déjà très joli je trouve en termes esthétiques, mais là même en termes techniques aussi ça remet les choses vraiment au goût du jour. Les ombres, les effets de lumière,
Les textures de manière générale,
les reflets, la flotte et tout, enfin les explosions, tout est vraiment cool. Je trouve que ça,
puis la variété des décors,
ça a pris de l'ampleur quoi, vraiment. Il y avait quasiment pas de solo dans le premier, je disais, là on a, il y a un vrai putain de mode solo en fait, enfin une campagne on va dire, parce que tu peux y jouer à plusieurs, donc c'est pas vraiment solo. Tu peux y jouer à plusieurs si t'as envie, comme dans un bon Halo, et justement t'as vraiment l'impression de jouer à un Halo en fait, du fait qu'il y a une campagne jouable en solo ou en coop de joueurs, je crois. Je sais plus combien on peut y jouer dans la campagne, mais
beaucoup.
C'est jusqu'à 4, je sais plus pour la campagne.
65 ça existe pas.
108.
Qu'est-ce que vous racontez ?
Non mais j'en sais rien.
Bref, t'as l'impression vraiment de jouer à un Halo parce qu'il y a un scénario qui sert à quelque chose, des séquences sympas, des trucs toujours renouvelés et tout. Enfin, j'ai adoré vraiment ça. Et en plus, le jeu est vachement mieux équilibré, je trouve. Il est beaucoup plus rewarding. Je sais pas comment on pourrait dire en français, mais
récompensant.
Récompensant.
Gratifiant.
Gratifiant.
Gratifiant. Voilà,
c'est
voilà merci.
C'est-à-dire que
voilà,
Décapello
existe.
Même pour passer du premier au deuxième niveau, du deuxième au troisième, c'est vraiment le tout début du jeu.
C'est vrai.
T'as tout de suite beaucoup de loot, t'es tout de suite pris en fait. Tu mets ton petit doigt dans l'engrenage, t'as la main qui rentre et le corps tout entier très vite.
Et à la fin, t'as la Dominus Gaul.
Mais t'as vachement envie de continuer. Et même quand je lâchais le jeu, j'y pensais. J'avais envie d'y retourner. Et là, tu vois, je suis parti au TGS. Ça m'a coupé complètement dans mon élan parce qu'on était en train d'y jouer pas mal.
Et en 4K en plus.
Et ça m'a manqué pendant le TGS. Tu vois,
mais t'avais Rudy.
Heureusement, j'avais Rudy.
T'as pu jouer avec lui sur place.
Mais
je
trouve que c'est vraiment une réussite à tous les niveaux, quoi. Et donc, et pour terminer, le contenu est vachement plus conséquent, et donc les situations de jeu beaucoup plus variées, et donc l'intérêt entretenu dès le départ de manière régulière, avec beaucoup de découvertes, de nouvelles choses et tout.
Et évidemment, Bungie qui rajoute du contenu au fur et à mesure. Ouais, toutes les semaines, il y aura quelque chose de nouveau.
Ah, tous les deux jours.
C'est vraiment un super jeu, quoi. C'est vraiment un super jeu. Le seul problème, c'est que c'est un gouffre à temps, quoi. Mais voilà.
Ah bah ça, ouais. Quand on se lance dans un jeu
comme
ça. Une
belle réussite. Moi, c'est un jeu pour moi.
En tout cas, ils ont réglé tous les problèmes qu'il y avait dans le premier, visiblement.
Ah ouais.
Une bonne partie. Parce qu'on refait quand même dans l'émission qu'on accomplit. On refait quand même beaucoup de trajets qu'on a déjà fait auparavant dans une autre mission. C'est toujours dans des zones bien précises.
Et alors, quand on dit... tu fais comme j'ai fait, c'est-à-dire que tu fais les missions principales et qu'en plus tu fais les missions annexes, là tu reviens dans les mêmes zones des maps.
Ouais, c'était ça.
Mais si tu fais que les missions scénaristiques, par exemple, tu reviens pas dans les mêmes zones de les maps. Il faut tout de suite.
Il faut gagner du niveau pour faire les missions scénarisées aussi, hein.
Alors moi, ça a été ultra bien équilibré.
Bah là, je suis au niveau 11. Il fallait que je sois au niveau 11 pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, j'étais.
T'as dû farmer?
Bah ouais, j'ai dû farmer un petit peu, ouais. Pas beaucoup, hein, mais j'ai dû farmer.
Alors là, franchement, je suis étonné.
Il faut farmer d'ailleurs.
À mon avis, tu t'es mal démerdé.
La ferme, d'ailleurs, c'est le hub de Destinée. Voilà.
Ça s'appelle pas la ferme, ça s'appelle le camp, non?
La ferme.
Ça s'appelle la ferme.
La ferme, absolument. Bon, bah voilà, vous savez tout.
Non, franchement, ouais.
Ah non, attends, j'ai pas fini.
Non, vous savez pas, j'ai plein de trucs à vous dire.
Point numéro 12.
Vous savez tout pour Destiny 2 par Julo. On rappelle d'ailleurs, hein, pour les jeux qu'on vient de citer, que ce soit Uncharted et Destiny 2, les tests sont disponibles sur Gameblog. Vous pouvez les lire. Vous pouvez même
les relire.
Les relire. Absolument.
Et puis après, si vous le désirez, peut-être même les.
Les re-relire.
Ouais.
Et les commenter.
Et on va finir avec Thomas.
C'est vrai.
Quel est ton jeu?
Ton jeu de l'été.
Et ben moi justement,
c'est touche pipi.
Comme Trace, c'est un peu le standalone, le spin-off. C'était la mort de l'Outsider de Dishonored. Parce que je crois que tu ne vas pas me contredire, c'est un univers absolument passionnant. Il y a une patte graphique, il y a une direction artistique qui est fabuleuse.
Ah bah, je pense que Arkane, ils sont dans les meilleurs studios de ces 10 dernières années, largement. Avec ça et Prey, ils sont au top du top.
Les personnages sont fabuleux, les décors te racontent tellement de choses. Et dans celui-là, bah, ce qui est un peu triste, c'est qu'on vient un petit peu refermer la parenthèse qui a été ouverte par le premier Dishonored, puisque là, c'est Billy Lurk qui va aller sauver son mentor Dodd
par les DLC du premier Dishonored.
Oui, exactement,
ça, parce que c'est quelque chose quand
ça
même
boucle
qui...
tout. Alors oui, il vaut mieux avoir joué au premier au DLC du premier Dishonored. Après, c'est pas non plus un handicap de malade pour comprendre, pour saisir les enjeux et profiter de l'histoire de la mort de l'Outsider. Mais voilà, clairement on met un terme en fait, puisque on va revenir aux sources de tout et défaire celui qui confère
source du mal,
les pouvoirs un peu surnaturels à Corvo et à Emily. Et donc c'est évidemment le gameplay de Dishonored, mais comme Billy n'est pas justement marqué du sceau de l'Outsider, les pouvoirs sont un petit peu différents et du coup on le joue différemment, parce qu'on n'a plus le blink qui permettait de se téléporter, on a quelque chose qui ressemble mais qui n'est pas exactement la même chose, et du coup bah, ça oblige un petit peu à jouer différemment. On peut évidemment toujours choisir pour une approche non létale, furtive, etc., ou jouer les gros bourrins, défoncer tout le monde.
Tu peux tuer un dieu ou pas?
Bah c'est un peu l'idée justement, tu vas tuer quelqu'un qui est là depuis 5000 ans en fait, donc voilà, au niveau de la symbolique il se passe des choses à la fin, c'est quand même plutôt sympa.
Tu l'as mis 8 ou 9?
J'ai mis 8. Parce que bon, il est assez court, il faut creuser en fait dans les niveaux. Chaque niveau te donne un objectif initial, après il y a tout un tas de petites missions annexes qu'il faut aller récupérer en allant au marché noir, tu peux y acheter des objets, tu peux prendre des contrats, et c'est comme ça que les niveaux se racontent aussi, c'est comme ça que tu t'es amené à les explorer, à découvrir plein de trucs.
Tu peux tout faire en furtif ou pas? Parce que je vois beaucoup de violence.
Ah bah tu peux tout faire en furtif, tu peux
une liberté dans Dishonored.
Il y a un gameplay d'une qualité.
De penser,
tu peux ne tuer personne, tu peux te contenter d'assommer pardon, les gens pour le coup.
Moi il y a une question qui perdure pour moi quand même, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi ce jeu n'est pas plus connu, cette série pas plus connue et ne connaît pas un plus grand succès?
Oui, ça c'est.
Parce que je trouve que quand même le succès,
il y a eu un succès critique.
Il y a un succès critique qui est absolument dingue.
En fait.
Tous les gens, mais c'est pas seulement critique, tous les gens qui y jouent te disent mais ce jeu est complètement. Enfin, avec le premier c'était déjà le cas, et pourtant c'est une série qui reste discrète en
un
fait.
Un petit peu confidentielle.
Confidentielle.
Ouais. Bah parce qu'ils ont Bethesda peut-être pas la.
Je crois qu'il lui manque quelque chose, mais je sais pas quoi.
Ah, bah je vois pas quoi.
Parce que, du marketing.
Ou quelque chose de très très grand public alors. Parce que on pourrait faire le parallèle avec
quelque chose
Prey,
qui lui donne,
Prey,
je sais pas,
pareil,
une identité extrêmement plus.
D'autant plus que dans les doublages.
Non, l'identité visuelle est dingue, mais je sais pas.
Dans les doublages VO en plus, on a des voix qui sont quand même réputées. Rosario Dawson, donc qui joue Billy Lurk. Je crois que c'est Michael Madsen qui joue
Dodd.
Michael Madsen, quand même. Mr. Blonde, si je ne m'abuse, dans Reservoir Dogs, entre autres.
Là, tu vois, mais tu vois
Dishonored, je le classerais dans les grandes injustices du jeu vidéo.
Ah, c'est vrai. Allez, nouvelle rubrique. Les grandes injustices du jeu vidéo.
Les mal jugés, parce qu'ils sont, ils ont bonne presse, mais les mal jugés en termes commerciaux.
On va appeler Christophe Andelat, qui va mettre sa veste en cuir.
Donne le jeu à Ubisoft, tu vas voir s'il sera mal jugé.
Voilà, vraiment, je m'interroge sur, en fait...
Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas
fonctionné
comme ça aurait dû ?
Qu'est-ce qui lui manque alors qu'il y a des jeux
qui
gagnent pas à être autant connus, mais qui le sont ou qui sont qui sont populaires.
Quand est sorti
Dishonored 2 ?
C'est pas que le marketing, je crois pas.
Ah si, beaucoup je pense.
Messieurs, dames,
parce qu'il y en a du marketing.
Quand est sorti Dishonored 2 ?
Il est sorti cet été.
Non, octobre,
pas du tout.
Novembre 2016. Et au moment où c'était
La folie.
La folie.
L'embouteillage. Voilà. Mais pourquoi est-ce que lui profiterait moins des autres que la folie alors qu'il est qualitativement peut-être
parce que c'est comme ça.
C'est à cause des journalistes de merde qui sont vendus.
Bah non, mais du coup, celui-ci, ça peut être un bon moyen en fait de rentrer un petit peu dans l'univers parce que tout est là, les pouvoirs sont là, la maturité du scénario, des personnages. Après, le seul petit reproche que je ferais à ce standalone, c'est que pour le coup, le fait que tu choisisses une approche létale ou pas, ça n'a plus autant en fait de conséquences sur l'univers, sur les gens.
Par rapport au jeu principal, tu
veux
dire ?
Oui, par rapport à Dishonored et à Dishonored 2 où ça changeait, ça faisait évoluer les décors, la manière dont les gens se comportaient, etc. Là, pour le coup, tu n'as qu'un choix final qui va orienter en fait le dénouement de l'histoire. Pour le reste, tu peux être super bourrin, on va te dire dans tes stats que t'as buté tout le monde, mais ça ne va absolument rien changer sur les missions d'après.
Oui, t'as des gros changements de scénario si t'es le mec le plus violent du monde.
Ouais, et même Emily à la fin change de caractère en fonction de l'aventure que t'as pu avoir.
Absolument.
Donc, c'est le seul petit bémol. En dehors de ça, si vous avez apprécié les deux premiers, il n'y a absolument aucune raison de ne pas se jeter dessus parce que tout est là et c'est ce qui marchait pour Uncharted, c'est qu'on a tout de manière assez concentrée en fait. Si on le trace, on le fait en 5 heures. Si on prend son temps, c'est le double. Voilà, ça fait une super expérience. Et il y a en plus de quoi le refaire. Parce que enfin, moi, comme tous les Dishonored, je l'ai relancé à peine la fin bouclée. Parce qu'il y a toujours plein de choses à voir. Il y a des missions à refaire de manière différente. Et voilà, c'est une durée de vie incroyable pour un petit jeu, entre guillemets, mais qui gagne à être connu.
Et encore un jeu condensé. Comme on aimerait en voir plus souvent.
Condensé la gigue.
Exactement. Il n'y a pas eu que des jeux testés chez Gameloft cet été, il y a eu aussi beaucoup de faits d'actualité. Alors on en a sélectionné quelques-uns qui nous ont déçus et choqués pour la plupart, ou alors au contraire qui nous ont enthousiasmés. On va commencer avec la grosse interrogation, c'est PlayerUnknown's Battleground, son succès.
Plus grand jeu de tous les temps, je crois.
Et juste...
on peut le dire.
Phénoménal.
C'est pharaonique.
C'est assez incroyable. Alors on a les chiffres là sous les yeux.
1 342 857.
Du nombre de joueurs simultanés sur Steam. Un record que maintenant le jeu détient devant Dota 2. Qui était quand même le détenteur
Dota 2 devant
absolu.
Counter-Strike. Parce que Counter-Strike franchement
Global Offensive.
C'était un sacré truc. 1 342 857 joueurs en même temps. Au moment où on enregistre
millions d'années, hein.
Alors, évidemment. Ce week-end il a été encore pulvérisé.
Et il a encore été pulvérisé.
Ils ont fait 1,5 million ce week-end de connexions simultanées.
Et tu nous l'as pas dit.
Bah si, je vous le dis là.
Ah bah c'est gentil, merci.
Ok, merci.
Donc il a encore été pulvérisé. Voilà, plus d'1,5 million joueurs dessus simultanément. Des ventes qui dépassent les 10 millions pour un jeu qui n'est même pas terminé. C'est juste une early access.
C'est toujours un early access
qui sera jamais terminé.
Qui sort à la fin de l'année officiellement sur PC et Xbox One.
Sur Switch.
Enfin, je veux dire, comment on explique qu'un simple Battle Royale, donc un dérivé d'un mode qui existait sur H1Z1, si je ne m'abuse, se retrouve comme ça.
C'est les gens qui font le succès de ce genre de jeu maintenant.
Oui, mais
le bouche à oreille, le machin. Regardez, on va s'éclater sur ce jeu-là parce que c'est
trippant. C'est la liberté qui t'offre aussi. Tu peux faire, peux absolument tout faire.
On rappelle le principe, hein, c'est 100 personnes qui arrivent sur une carte et qui doivent survivre. C'est un battle royale. Il doit en rester qu'un à la fin, sauf si vous jouez par équipe, où là ça devient un peu plus intéressant d'ailleurs.
C'est ça qui est plus intéressant, exactement.
C'est
le fait de pouvoir jouer par équipe, je pense que ça fait kiffer les gens.
Ah ouais, moi je comprends pas. Là.
Et en plus, c'est pas si moche que ça, quoi. Enfin, ça va pour un jeu comme
mais
ça.
Mais non, la palette est moche, il est juste pas fini.
Non, mais
il y a juste des trucs qui fonctionnent plus, enfin qui fonctionnent pas dans le jeu. Ouais.
Non, mais c'est un phénomène, c'est pas toujours explicable. C'est juste que voilà.
Les gens y ont adhéré petit à petit et tout le monde est venu. Voilà, tout le monde joue à ça. Ça fait effet de mode aussi quand même.
Et tu racontes une histoire différente à chaque partie en fait.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as presque un effet de suivisme. C'est-à-dire que le fait que tout le monde y joue te donne envie d'y jouer aussi. Donc une fois que t'as franchi un cap et que t'es devenu un phénomène, ça fait qu'augmenter quoi.
Tiens, tu peux même prendre des cartes et défoncer les gens avec.
C'est un jeu dans lequel t'as énormément de situations, là, comme on vient de le voir là, à l'image rigolote, quoi, où il peut se passer des trucs toujours différents et où chaque partie est une bataille royale. Une bataille royale différente. Quoi.
Il est marqué, ceci n'est pas juste un jeu.
Bon, c'est
une bataille
royale.
C'est original quand même.
Bah voilà, enfin original, je sais pas, mais en tout cas, ça remplace un petit peu les jeux où t'arrives sur une map avec des zombies partout.
Et alors, c'est un tel phénomène, je vais vous dire, qu'il y avait un stand qui était quasiment entièrement dédié au Tokyo Game Show.
Ah oui,
c'est dingue.
Honnêtement,
pour
c'est dingue.
Pour un jeu occidental,
c'est absolument pas le genre de jeu auquel ça donnerait les japonais.
Blue Hole, ils sont pas occidentaux, hein, le studio qui développe. Hein. Après,
c'est qui, c'est quoi, c'est quoi
Quelle nationalité je tiens
C'est asiatique, mais je ne saurais plus dire T'es laquelle. Coréenne, je crois, oui. Mais le mec.
Ah oui, t'as raison.
Brendan Green, donc qui s'occupe du jeu,
lui,
est
américain.
Voilà, c'est ça. Et lui, il s'est dit, tiens, je vais aller.
T'as raison.
Mais après, oui, le type.
Donc, ils veulent s'importer sur le marché asiatique en disant, allez, venez nous rejoindre.
Ouais, mais le type de jeu est occidental, mais après.
C'est ça, voilà, exactement.
Ça ne l'est pas.
Mais c'est vrai qu'ils ne demandent pas forcément des grosses ressources non plus. Pour un PC.
C'est ce qu'a fait le succès de WoW à une époque. Et voilà, ça peut
exactement de la même manière qu'effectivement Counter-Strike par exemple.
Oui, c'est ça,
t'as pas besoin d'un PC,
quoi,
de combat.
Et en plus, c'est ce que tu disais, Julo, c'est un peu la prime au premier. Tu sais que qu'en allant jouer à ce jeu, il y aura du monde en ligne, forcément. Oui. Les parties vont être remplies, tu vas pas attendre comme un con dans les lobbies.
Le succès appelle plus de succès à chaque fois.
C'est fou.
Et puis bon, bah voilà, c'est vrai que tu disais bof bof quand je disais c'est original, c'est plutôt original. Tu peux me citer un autre jeu de Battle Royale?
Il y avait le mode de H1Z1 King of Legends. Auquel participait le créateur de Battlegrounds et
c'était qu'un mode, et là maintenant voilà, t'as un jeu entier dédié à ce gameplay, à cette
et d'ailleurs ce type de gameplay plaît beaucoup aussi du côté de chez Fortnite, hein, puisqu'il y a eu une petite erreur dont on parlera tout à l'heure.
Exact.
Bon, on peut d'ores et déjà dire que c'est un succès. Que c'est un phénomène à la même hauteur que d'autres avant lui, voilà, qui sont aujourd'hui sur une autre planète, comme
Daisy,
Minecraft,
etc.
Comme Minecraft par exemple. On se souvient du début du phénomène Minecraft, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est arrivé petit à petit, et puis au bout d'un moment on a froncé les yeux comme ça en se disant, attends, mais il y a vraiment autant de gens qui l'ont téléchargé. Et puis d'un seul coup, c'était complètement exponentiel jusqu'à l'infini, j'ai envie de dire, avec Minecraft. Je ne pense pas que PlayerUnknown arrivera aussi loin.
Attends, que tu veux sortir le 2.
Attends qu'ils sortent déjà.
Ils vont le sortir sur quoi ? Sur Switch, sur toutes les consoles.
Ah, sur Switch, ça serait
cool. Il sera peut-être crossplay.
On sait pas où ça va s'arrêter, mais par contre, on sait déjà qu'on est devant un véritable phénomène, quoi.
Absolument.
Tiens, il y a même des gens
d'ailleurs
qui jouent et qui commentent.
On reste sur PlayerUnknown's Battleground pour parler d'un des faits navrants de cet été.
Oh, tout de suite.
Ça concerne PewDiePie, qui, une fois de plus, ce garçon, décidément, je sais plus qui m'avait dit chasser le naturel, il revient au galop.
C'est moi, arrête de copier ce que je dis, ça m'énerve.
C'est toi qui me l'avais
dit,
bien
sûr.
Il l'a inventé, je crois.
La maîtresse, il a tout dit avant tout le monde, donc c'est compliqué au bout d'un moment.
Donc ce garçon.
Tiens, regarde sa tête, il est gentil, le mec.
Qui a je ne sais combien
d'années. Je sais pas pourquoi t'as choisi cette photo.
Elle est très bien. Mais non, c'est sa photo d'excuse.
On dirait qu'il l'a prise.
C'est sa photo quand il s'est excusé.
C'est vrai.
De sa bourde que Plume va nous raconter tout de suite.
Parce qu'il a fait une grosse bourde, évidemment, puisque quand il était en train de jouer à PlayerUnknown's Battlegrounds.
C'est plus qu'une bourde là quand même.
Oui, c'est plus qu'une bourde parce que naturellement, il insulte quelqu'un et l'insulte en anglais c'est What the fucking nigger. Alors.
Quel putain de nigger.
Je ne sais pas. Voilà. Julio a fait la traduction, donc c'est lui qui voulait attaquer, etc. C'est lui, hein, qui vient de le dire, c'est pas moi.
Mais bref. Tout ça est enregistré, tu veux dire ?
Oui, tout ça est enregistré, absolument.
Ah, tu veux dire, quand on va couper juste ça.
On va couper au montage.
Qu'on va faire un montage. Je te réponds en disant ça.
Voilà. Et donc.
Faites n'importe quoi, en fait.
Je sais pas pour vous.
C'est vrai.
Mais moi, quand j'insulte quelqu'un.
Ça veut dire beaucoup.
C'est pas la
première chose qui me passe par la tête, c'est pas. Ah, quel putain de nègre. Non, franchement, j'ai beau chercher dans ma tête. À la limite, je peux dire pute. Je peux dire putain. Je peux dire enculé. Mais alors ça.
Mais c'est pas bien ça.
C'est pas bien ce que tu dis.
Ça, j'ai
du
mal. Oui,
mais ça, c'est spontané.
Il mettra des bips.
Voilà, ça, c'est des trucs que je peux dire spontanément.
C'est plutôt au niveau de
mais
la
alors
aussi,
ça,
c'est vrai que pour sortir ça, c'est que son cerveau reptilien, quand même, c'est que.
Ouais.
C'est très profond.
Très
profondément ancré en lui, quand même.
Après, donc voilà, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Il a des millions et des millions d'abonnés dans le monde.
Ça se voit, c'est.
Ce qui, quand même, est assez problématique quand on est quelqu'un d'influent comme lui.
Oui, c'est ça le truc.
Donc ça a fait.
Tu peux pas permettre ce genre de choses.
Cela dit, il a perdu quelques sponsors et quelques.
Ça fait des années qu'il perd des sponsors vu qu'il avait fait plein de blagues racistes.
Oui, c'est ça, c'est le pire.
Le mec a toujours 50 millions d'abonnés quand même.
C'est pour ça que je disais, chasser naturel, il revient en galop et il en fera d'autres.
Bon, après, il a présenté des excuses, donc vous pouvez voir un extrait. En image
la
juste là.
C'est la deuxième fois cette année qu'il présente des excuses.
Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ça fait beaucoup, quoi.
Ouais. Donc, des excuses dans lesquelles il a expliqué que.
Qu'il pouvait se décoller au cul, ouais.
Effectivement, c'est pas que.
Qu'il a dérapé, c'est pas lui, machin.
Non, pas du tout. Il a dit que ses propos, il cherchait pas à présenter
oui,
des excuses parce que
dans le feu d'action.
Ses propos étaient inexcusables de toute manière et qu'il essayait de s'améliorer. Et la seule explication, c'est que, en fait, lui était complètement bête. Voilà. Donc, on peut le rejoindre là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, si une fois de plus il recommence ce genre d'exaction, déjà là, je me demande s'il va encore avoir du crédit auprès de tous ses abonnés et auprès de ses sponsors.
Il a acheté combien de millions d'abonnés sur YouTube, sur Twitter, Instagram.
Ouais, mais bon,
il
y a quand même un moment où. Bon,
c'est ce qu'on
appelle un dérapage de trop, quoi.
C'est toi qui l'as inventé aussi celle-là, non ?
De quoi ?
Jamais 203.
Ah mais c'est sûr, mais non, mais en plus c'est pas la deuxième, c'est pas la première fois ni la deuxième qui fait ça, c'est de, au moins la troisième ou quatrième fois qui commence à qui fait des vidéos un peu tendancieuses, un
bon,
peu bizarres,
bah, tant
un
mieux,
peu limite. Hein.
C'est les...
Moi je pense, moi j'ai une théorie,
les éditeurs c'est... de jeux vidéo commenceront un peu moins à faire confiance à ce genre de
bah,
type et reviendront.
Moi je, moi je pense qu'en fait ils s'ennuient tellement que il pour refaire parler de lui, bah, il remet.
C'est l'ennui, je pense que c'est plus le côté invincible que te donnent des millions de personnes qui te regardent, où tu t'oublies complètement.
Oui, c'est ça, il en a plus rien à foutre, il est tellement au-dessus
de
la mêlée.
Je pense pas non plus. Je pense vraiment que.
Moi, je suis persuadé qu'il a gagné des followers avec ce genre d'autres.
Ce jeune homme.
Je suis presque sûr.
ce petit Félix, je pense juste qu'il est.
C'est pas Félix.
Il est un peu, bah oui. Il est un peu dérangé, quoi, et que. Bah ouais, dans sa vie. Peut-être que dans sa vie de tous les jours. Félix Kahlberg, pour tout dire.
Et bah, joyeux Noël, Félix.
Exact. Je pense que sa langue natale n'étant pas l'anglais, déjà pour commencer.
Bah, il parle parfaitement anglais. Arrête.
Non, mais c'est pas sa langue natale.
Il a voulu dire fichier, il a dit nigga, je sais pas pourquoi.
Il est archi bilingue, le mec.
Bon, j'essaie de lui trouver des excuses, ça sert à rien.
Ouais, j'ai mis deux mots bout à bout.
Que
là, j'ai pas
dit que des conneries.
Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas du tout ça que je voulais dire.
Bon,
je voulais dire ours blanc.
L'autre chose qui nous a marqué évidemment cet été, c'est l'engouement autour de Dragon Ball FighterZ.
Ouais!
Et oui, parce que
ce jeu
qui a été révélé durant le 3 2017 a eu droit à évidemment une présentation durant la Gamescom. On a pu y rejouer et surtout il y a eu la bêta qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant au moment où on enregistre, qui nous a permis de découvrir un jeu absolument
phénoménal
et extraordinaire pour toutes les personnes qui ont pu l'essayer d'ailleurs sur Gameblog.
Moi, je trouve que ça manque vachement d'étapes d'animation, mais bon, après c'est beaucoup mon avis.
Bah, si t'es pas content, t'as qu'à le faire.
Voilà. Bah écoute, hein.
On a le droit d'exprimer
un avis. Non, mais vous avez
critique,
le droit d'aimer, hein.
Moi,
vous avez le droit d'aimer.
Tu trouves que l'animation est pas terrible, c'est
bah,
ça?
Bah franchement, ouais, je suis désolé, mais ouais.
Oui, c'est pas.
Mais après, le jeu est extraordinaire parce que il apporte tout ce que vous avez toujours voulu avoir sur un
jeu. C'est un jeu hyper nerveux.
Donc,
et
là-dessus,
en fait,
je peux pas contredire.
Non, c'est un jeu de collision 2D, donc ça conditionne aussi certains trucs.
Mais bon, les animations, il n'a pas assez, voilà.
Non, mais tu sais que Naughty Dog a contribué au jeu ou pas?
Non, c'est pas possible.
Bah si, je préfère que tu le saches, parce que comme ça, tu pourras peut-être un peu revoir ton jugement.
Non, moi, c'est juste le petit bémol que je mettrais, c'est tout. Les étapes d'animation, il y en a
pas. Oh là là, bah alors là, franchement, je sais plus quoi.
Bah, je t'ai cassé ta baraque là.
Oh là, je sais plus quoi dire.
C'est pas grave, le jeu n'est pas sorti de toute façon.
C'est vrai,
je comprends ce que disent.
Ils ont le temps
je trouve que. Pour se
rapprocher. C'est peut-être un style qu'ils font. Hein,
exactement,
pour le jeu,
se rapprocher
pas, hein.
Du style du dessin animé,
ah, possible,
qui est haché en fait.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Dans les animations, quand ils envoient les coups, les machins et tout. Voilà, tu vois, genre ça,
c'est des choses plus beaux que Dragon Ball Super quand même.
En tout cas. C'est le jeu Dragon Ball qui a le plus de gueule ever, quoi.
Ouais. C'est celui qui va, à mon avis, faire le plus gros carton quand il va arriver en février 2018
sur
PC, PS4.
Moi, je lui vois qu'un seul défaut dans sa mission de nous faire vibrer comme on a vibré avec les premiers jeux Dragon Ball, enfin parmi les premiers en tout cas, on pensait évidemment à l'époque Super Nintendo et tout. C'est les combats à distance. Voilà. C'est
comment
uniquement.
Bah, quand on fait un jeu de baston, après on peut.
Dans les anciens Dragon Ball où tu pouvais vraiment prendre tes distances avec ton personnage, charger un gros Kamehameha à distance.
Oui, ça bouleverse complètement le gameplay, justement.
Ouais,
ça n'a pas été le même jeu.
Le temps,
par contre, forcément, c'est nerveux.
Ça va presque trop vite.
Par contre, en termes de mise en scène, c'est juste extraordinaire ce qu'ils ont fait. L'arrivée des personnages qui se mettent coude contre coude.
C'est le côté, la dévotion avec laquelle ils cherchent à se rapprocher du manga, en fait, dans tous les trailers qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Dans les animations, tu vois qu'en fait, ils reprennent des scènes du manga. Tu peux les mettre par-dessus le Final Flash de Vegeta, etc. Enfin, t'as plein de moments, c'est très portrait ce que Toriyama a dessiné. Il y a des scènes cultes qui sont reprises et c'est fabuleux de voir qu'ils mettent une telle énergie à se rapprocher à ce point de l'œuvre originale.
Et on en avait parlé d'ailleurs, on avait fait une émission spéciale suite à la bêta avec Romain et Johnny Wan. C'est le fait qu'ils aient respecté exactement les coups de chacun des persos. C'est-à-dire que le coup de pied de Vegeta, il va le donner comme Vegeta est dessiné dans le manga. C'est une fidélité qui est incroyable et qu'on n'avait jamais vu auparavant, d'autant plus que si on prend les Xenoverse qui permettaient d'avoir plein de persos, ils avaient tous la même palette de coups.
Oui, et même ceux d'avant, les Tenkaichi, les Budokai,
exactement.
Etc.
Et là c'est
la palette de coups qui était peu diversifiée, mis à part les attaques spéciales, etc.
Exactement.
Là t'es face à un vrai,
c'est ta partie, plus
vrai jeu de baston.
Oui, d'ailleurs c'est la partie où j'ai fait une remontada normalement
avec ces 18 là.
Ouais, je crois. J'espère que c'est
celle dont on a entendu parler
pendant
plusieurs
jours.
C'est
là où tu vas-y, attends, profitons-en parce que
on peut la regarder.
Pas
voilà.
Vu, du coup, moi,
j'ai fait une remontada. Voilà,
tu regardes, on voit ses yeux, bizarre.
Mais c'est pas celle que j'ai préférée. Celle que j'ai préférée, c'est une que j'ai perdue, mais où j'ai transformé Vegeta en biscuit.
Il y avait qui dans ton équipe, toi, là?
Je sais plus. C'était l'équipe que j'avais de base, celle. C'est 18 et peut-être. peut-être Trunks, je sais plus. Franchement, puis on s'en fout. On s'en fout, ce n'est pas l'objet de ce podcast. On y reviendra peut-être un autre jour sur Dragon Ball FighterZ.
Quand le jeu sortira.
Oh oui.
Par exemple. Mais
là, enfin, tu vois, on peut pas dire que le 3 était pas terrible quand un tel jeu a été annoncé.
Oui, voilà. Oui, enfin, c'est le seul truc qui nous a plu le 3.
Il n'y a pas eu de surprise le 3.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que ça va être le phénomène de. Il sort quand ? C'est mars 2018 ?
Février 2018.
Février 2018,
ouais. Ouais, il sort dans une. En plus, parfait, je trouve. Ça va être début d'année, là, 2018. C'est...
Ah,
c'est
il, va réchauffer, il va réchauffer les chaumières. Autre fait important, ça c'est plutôt un feuilleton en fait qui a continué pendant tout l'été, c'est l'histoire du crossplay. Pour PlayStation. Parce que Sony, quand on leur pose la question, ils sont pas chauds hein, pour faire du crossplay avec l'environnement.
Mais je pense que tout le monde les saoule tellement qu'au bout d'un moment ils vont finir par lâcher, c'est pas possible.
Bah, ils ont pas, là, il y a pas longtemps, ils ont pas eu
dans leur, c'est pas dans leur intérêt, dans le sens où ils sont dans une position tout à fait dominante.
Exact.
Par contre, ça serait quand même dans leur intérêt pour une question d'image, en fait, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à écorner leur image, justement.
Mais leur image, c'est quoi ? Ils ont 60 millions de
force de player, c'est leur image.
Oui, mais les joueurs PC,
je pense qu'ils ont tout
et
à
en fait,
perdre.
Les joueurs PC, ils ont marché sur l'eau.
Ah non, mais avec PC, PS4 et PC, ça existe le crossplay. C'est avec Microsoft qui veulent ça.
Et inversement,
avec la Xbox uniquement.
Et inversement, c'est tout à fait dans l'intérêt de Microsoft de le faire.
De faire des appels.
Donc
pied,
on comprend
sûr.
Si tu veux les deux positions, mais là où celle de Sony va de plus en plus être intenable, c'est que ça va ternir son image, Force the Players.
Je suis pas certain.
Ah bah ça a déjà commencé. Hein. Si tu veux mon avis, les gens s'agacent vraiment.
Les chutes de
et les développeurs s'en agacent.
Ouais, voilà, c'est ça. En termes d'impact véritable, qu'est-ce qui va y avoir ?
Voilà.
Les gens ont déjà acheté une PS4.
Toute la communication de Sony a été basée là-dessus depuis le départ, depuis l'annonce de la console, où ils surfent sur que des bonnes annonces, que des bonnes vibes, que des machins. Ça commence à s'écorner avec ce genre de petits détails à la con qui ont baisé complètement la Xbox dès le démarrage. C'est des petits détails qui ont monté en épingle, sont devenus des trucs cataclysmiques, et ça, on sent que ça commence à agacer les développeurs, les joueurs, tout le monde.
Oui, mais la temporalité n'est
dans
pas la même.
Dans un jeu comme
que...
Destiny, par exemple.
Il a pas eu le temps de faire sa phase.
Pardon, non, mais Xbox est arrivé effectivement avant même le lancement de la console. Là, on est quoi, 4 ans et demi après la sortie de la PS4.
Oui,
donc l'impact, il va être complètement différent.
Ah, bien sûr.
Je comprends ce que dit Plume, en fait. Je partage ton avis, mais en termes commerciaux, ça n'aura
non,
que
ça
peu
va pas inverser
en fait,
les ventes de la PS4, ça c'est sûr.
Non, c'est
par contre, ça écorne
l'image. Attends, on me dit dans l'oreillette que. Ah oui, il y a des gens en République qui sont furieux. Attends, ça
mais
tout le monde brûle les boutiques.
Voir.
Faites pas confiance. Il y a une pyramide de PS4 qui est en feu, me dit-on, vers Bastille.
Je vous dis vraiment, ça écorne en fait l'image, la communication Force of
Players. Oui, mais auprès des initiés comme nous, par exemple. Je pense pas qu'auprès du grand public, ça change
quoi que ce soit. La communauté de développeurs qui fait des jeux multi.
Non, puis même, je veux dire, si t'as pas la même console que tes potes, que t'as envie de jouer au même jeu, sans être.
Ah bah, d'après une pratique,
on en entend parler quasiment tous les jours.
Ça fait 10 ans qu'on entend parler de ça.
Non, mais le truc, la vraie différence, c'est que maintenant, les développeurs ont lâché le morceau, ils ont dit, voilà, ils ont juste à dire oui.
Techniquement, c'est possible.
C'est fait.
On sait le faire.
C'est fait. C'est
on a eu l'exemple de Minecraft, Fortnite, justement.
Minecraft, par exemple, qui est crossplay sur toutes les plateformes, y compris la Switch.
C'est vrai,
Microsoft veut. Rocket League, il y a du crossplay entre plusieurs plateformes. Et il y a eu l'erreur. L'anecdote Fortnite, il n'y a pas très longtemps, le jeu d'Epic Games, qui a activé par erreur. Alors ils ont expliqué ça, ils ont donné ça comme explication.
Non, ça c'est pas vrai.
Par erreur, on a permis le crossplay entre PS4 et Xbox One pendant 2-3 jours.
On l'a retiré et on n'a pas fait exprès.
Voilà,
c'est ça,
chose pour laquelle sur laquelle Phil Spencer est évidemment revenu en disant c'est dommage qu'il l'ait pas laissé parce que bon, c'était plutôt cool. Et voilà. Donc oui, effectivement la balle est dans le camp de PlayStation, mais est-ce qu'ils vont
maintenant ils seront intransigeants là-dessus, je pense, il faut pas rêver.
Oui, mais alors si on voit un tout petit peu plus loin,
je pense que ça durera qu'un temps.
Ils ont une certaine forme d'arrogance si tu veux vis-à-vis de ça, parce qu'ils sont leaders et on sait que tu peux, d'une génération à l'autre, tout peut se casser la gueule. Tu peux passer d'une position de leadership à être à la traîne. On l'a vu avec Microsoft en une.
Non, ça, je sais bien.
Entre la 360 et la Xbox One, il s'est passé beaucoup de choses. Et Sony serait peut-être bien inspiré de mettre un peu d'eau dans son vin et de s'ouvrir un minimum.
Vous savez très bien comment travaillent les Japonais. Ils travaillent toujours en cercle très, très, très fermé. Et eux, ouvrir un truc comme ça à la concurrence, entre guillemets, même si ça n'a rien à voir, mais c'est quand même un concurrent, c'est la Xbox. Et eux, ils veulent leur propre truc propriétaire,
oui, mais leur
propre marché,
ils acceptent
machin,
avec le PC, donc c'est un peu voilà,
le PC c'est pas leur concurrent, ils en ont rien à foutre du PC.
Cette position sera pas tenable éternellement, moi je vous le dis.
Bon, je sais pas,
je pense qu'il y a un moment ils vont céder.
On va finir avec un dernier fait d'actualité de l'été, c'est un vrai scandale,
c'est vrai,
en tout cas pour Romain. qui est un grand fan de South Park, puisque Ubisoft avait annoncé Ubisoft au début, et même sur le site officiel, hein, c'était écrit, il y aura les voix officielles françaises de South Park, donc Cartman.
Pour le coup, c'est pas de la faute d'Ubisoft. Hein. Ce qui s'appelle.
J'ai pas encore abordé le sujet, Traz. Ne mettons pas la charrue calme. Avant les bœufs.
Je vous l'accorde, je temporise.
Temporisons un petit peu.
Donc, qu'est-ce qui se passe?
Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils avaient dit oui, il y aura les voix officielles françaises pour tous les personnages de, français de South Park.
Et en fait, non.
Et patatras, cet été, on a appris que non, pas du tout. À la fin de l'été, là, comme ça, comme.
Et surtout, on a appris que la France allait être le seul pays dans lequel ce sera
voilà,
pas le cas.
C'est ça le pire, en fait. Mais encore une fois, pourquoi? Parce qu'ils ont fait des négociations avec les doubleurs en
non.
question.
Qui n'ont pas de. Julot, t'as les infos.
Ah bah alors t'as d'autres.
Non mais vous avez bien suivi la suite.
C'est pas les doubleurs.
C'est pas les doubleurs.
C'est plutôt la société qui
c'est
entre
la société
les
deux.
Oui pardon. Oui oui.
Justement
parce que au départ, tout le monde a accusé les doubleurs en disant voilà ça
non,
y est, nous on est en France.
Exactement. Mais pardon. Attends pour moi.
On est en France machin.
Là, c'est les doubleurs. C'est toujours une question de.
Est-ce que tu peux t'excuser encore une fois s'il te plaît?
Non pas du tout.
Ah bon tant pis. Donc c'est la société.
Et donc au final c'est la société qui les représente tous qui a été a priori trop gourmande.
D'accord. En accord avec elle-même.
Mais les doubleurs eux souhaitaient évidemment être dans le jeu et ça ne sera pas le cas. Voilà.
Et c'est plutôt triste.
Pas... Oui, pourquoi les doubleurs se sont pas rebellés dans ce cas-là en disant bah non, nous on n'est pas d'accord avec.
Et parce que tu peux, pas ça, seul dire moi je vais quand même aller doubler le truc dans mon coin. Enfin.
Eh oui, tu
l'as attaché. Le deal était global, ils s'étaient mis d'accord sur un certain montant au départ et finalement la société de doublage est revenue dessus une fois que ça avait été
négocié.
Quelque
part, si les gens qui font le doublage et le succès d'une société de doublage se mettent à dire bah non, nous on n'est pas d'accord avec ça, on voulait pas aller.
Mais regarde, si Plume n'est pas d'accord avec toi, qu'est-ce qu'il gagne?
Bah c'est lui parce qu'il a
c'est
des gros
toi.
Droits.
Non mais il y a 5 personnes à Gameblog qui sont pas d'accord avec moi. Et... Je dis bah oui, vous avez raison.
Oui, mais les doubleurs ont signé des contrats avec... au départ, tu t'engages sur tout un tas de trucs, des produits dérivés,
ouais,
etc.
Certes.
Donc tu peux pas en ton nom propre décider.
Donc OK,
de
donc ça veut dire qu'en France, on peut pas doubler des jeux vidéo parce
mais
que
mais si justement, on va quand même
par rapport
avoir
à tous les autres pays,
c'est ça qui est fantastique,
on ouvre notre
gueule quand même avoir des voix françaises.
Mais on est impatient de voir ce
que ça
va donner.
Mais ça va être les mêmes,
parce qu'ils ont peut-être pris des espèces de jumeaux de voix et voilà, on va voir.
Ils ont pris de la double.
C'était un peu
où tu auras des gens effectivement qui essaieront de reproduire ou alors tu auras quelque chose de complètement différent et qui va. Enfin, je crois que c'est la pire solution que tu puisses.
Qui vont prendre le mec avec l'accent marseillais du jeu de Sega là.
Putain,
ça me troue le cul, Stan. Qu'est-ce que tu fais?
Bah, je sais pas.
Franchement,
c'est le meilleur doublage de tous les temps, c'était celui-là.
Non, c'était celui de Dynasty Warriors. Ouais.
Oui, aussi, ça va.
Suite Dynasty Warriors.
Seigneur Liu Bei.
Ah, celui-là était pas mal non plus.
Bon,
quoi de neuf dans votre province?
Mais juste pour finir là-dessus, c'est quand même super dommage pour tous les fans de la licence qui espéraient retrouver les voix françaises parce que pour le coup, ils l'ont
dans
baba quoi.
Et moi, je jouerai en VO donc c'est pas très grave. Voilà. Le jeu qui est passé Gold d'ailleurs, rappelons-le, qui sort en octobre. En octobre,
non, en
le 17 octobre.
Oui.
Voilà, c'est dans deux semaines.
Dans deux semaines, oui.
Oh merde, c'est dans deux semaines.
Oui. Putain, c'est dans comment? Ah oui, deux semaines, c'est ça.
Eh oui, cette fin d'année va terriblement.
Et donc, qui a diffusé un joli petit trailer que je vous invite à regarder, que je trouve absolument hilarant, où il se fout complètement du jeu de Kanye West sur mobile.
Oh, tout de suite.
Et c'est très drôle et en même temps, le respect a disparu. le thème numéro 2 de ce podcast, messieurs, on y vient enfin. Avant de finir sur FIFA et PES, on va parler rapidement
de la
Gamescom et du Tokyo Game Show 2017, des éditions
qu'on s'en va.
Pourrait juger décevantes au regard au regard des annonces qui ont été faites, au regard des jeux auxquels nous avons pu jouer.
Moi de la Gamescom, ce que je retiens, c'est surtout le
le World Premiere,
le show Microsoft,
ah,
qui
n'en
était pas un, qui m'a fait mourir de rire tellement c'était
nul. Coup, ça commençait bien. Ouais.
C'était nul à chier du début à la fin, c'était ridicule.
Surtout qu'on a
World Premiere de rien du tout.
À la base, on n'en attendait pas grand chose.
C'était n'importe quoi.
Et
vraiment.
Là, le truc commence.
On a eu moins que rien, dis donc, c'est un truc de ouf. Hein.
Non, mais on en attendait quasiment rien.
Et on n'a rien eu. On a quand même été déçu.
Non, justement, il y a une étape entre les deux, c'est ça qui est drôle. C'est qu'au moment où ça commence, ils disent et il y aura
7
World Premiere. Alors on est en train de regarder, on se dit ah bah en fait, ça va être pas mal.
Il y aura des annonces et tout.
En fait non.
T'as eu que du vu, du revu.
Non, c'est du bullshitage franchement.
Voilà.
Bah après le décor était sympa, les canapés sont jolis.
Oui, ça change.
Il y avait moins de monde sur les canapés d'ailleurs. Et Aaron Greenberg qui nous racontait ses trucs. Ouais super, n'importe quoi.
Bon,
en fait,
ouais. Bon,
bref,
heureusement la Gamescom tout entière n'était pas à l'image de non plus de.
Elle était peut-être à l'image de Sony qui était absent dans le business, hein, non?
Voilà, oui. Donc bah, Sony absent comme d'habitude, ouais. J'ai envie de dire, parce que
sauf sur les stands avec beaucoup
4,
de jeux,
ans que ça dure.
Ouais, avec beaucoup de jeux quand même, hein,
alors,
disponibles.
Quand on
hein, de
dit, évidemment, quand on, alors, on le répète, quand on dit que Sony était absent, Sony n'est pas absent du salon.
C'est en termes de conférences. Et en termes de business,
le plus gros stand du salon, c'est le stand PlayStation. Voilà, donc il y a un stand PlayStation, mais les intérêts, on va dire,
médiatiques
internationaux de la PlayStation ne sont pas du tout là, et ils seront dans tous les cas cette année avec une conférence à la Paris Games Week. Donc très clairement Sony a refait ce qu'il a fait il y a 2 ans, c'est-à-dire annoncer qu'il fera une conférence en Europe, mais que non, ce sera pas à la Gamescom et que ce sera au Paris Games Week, à la Paris Games Week, ça comme vous voulez,
au PGW,
à la PGW, c'est pareil. Dans tous les cas,
et que ça va déchirer
cette année, je dois dire que Gamescom est pour une fois à la hauteur des critiques de ses détracteurs. Dans le sens où ça fait des années qu'on nous dit que c'est pas un salon international, etc., ce qui est complètement faux. Cette année, c'était faux aussi, mais disons que
c'était un peu moins vrai, un peu plus vrai que d'habitude.
Disons, c'était pas vrai.
C'était un peu moins faux.
Disons qu'en termes d'annonces, de réjouissances diverses et variées.
Mais surtout, il y avait du monde aussi quand même, mine de rien.
Il y a toujours énormément.
Les gens viennent, quoi. Je veux dire, s'il y a rien, les gens viennent pas.
Non, mais à la Paris Games Week, il y a pas grand chose de nouveau non plus. Il y a un monde fou.
Ah non, non. Alors, c'est pas du tout le même public.
Bah là, il y a qu'un Allemand, l'autre qui est français.
Il y a quand même des jeux qui sont sortis, qui sont présentés aussi à la Gamescom. Hein.
Alors non.
Alors, c'est surtout un salon qui se sort, donc ça fait venir.
La Gamescom est un salon international.
International.
T'as la presse de tous les pays qui viennent.
La Paris Games Week aussi.
Paris Games Week aussi depuis 2-3 ans.
Attends, mais bien sûr, c'est un rayon de ouf la Paris Games Week. Comment c'est international?
T'as quand même pas mal de sites internet étrangers qui font des trucs sur place. Mais non, qui faisait pas ça avant. Non, mais c'est vrai.
À la Paris Games Week.
Oui, oui, vraiment. Il y a des gens qui viennent.
Il y a 2 ans, oui.
Oui, c'est ça. Depuis 2 ans, ça
arrive.
Non,
il y a 2 ans. L'année dernière, non.
L'année dernière, peut-être pas, effectivement.
Enfin, bref. Bon, quoi qu'il arrive. C'est un salon franco-français, la Paris Games Week. Mais sauf qu'il y a 2 ans, effectivement, le fait que Sony organise sa conférence sur place.
Mais je parlais surtout de ça, parce qu'ils ont créé
un événement. A créé un événement international. Et donc, on a croisé dans les allées réservées à la presse, etc.,
tous les sites étrangers, etc.
Sites étrangers, etc. Ce qui n'a pas du tout été le cas l'année dernière.
Oui, c'est vrai que l'année dernière, c'était pas.
Et ce qui sera probablement à nouveau le cas cette année. À la Gamescom, t'as en permanence une énorme salle de presse, des gens du business de tous les pays, t'as des rencontres B2B.
C'est ça, c'est plus du trade.
Et t'as de la presse américaine, japonaise, coréenne, etc. Partout dans les allées du business center, des salles presse, etc. Donc ça reste évidemment un événement international. Simplement cette année, ce qu'on peut dire, et ce qui est pour moi la grosse déception, c'est qu'on s'est fait un peu chier, quoi. C'est qu'il y avait évidemment pas la conférence Sony, celle de Microsoft était à chier, et celle d'Electronic Arts, qui a joué le jeu pour sa part, était pas non plus super réjouissante en termes de contenu. Quant au jeu qu'on a découvert sur place, on s'est rendu compte quelque part cette année que
on
aurait mieux fait
de
miser quasiment exclusivement sur les jeux indés, parce qu'on aurait vu des choses beaucoup plus intéressantes qu'avec les rendez-vous qu'on a pris là.
C'est toi qui les as pris, donc tout est ta faute.
Mais c'est pas de votre faute.
Et malgré tout, il y a des choses qui ressortent assez positives, comme par exemple l'arrivée d'un nouvel éditeur qui compte, je pense, THQ Nordic, qui avait un gros line-up.
Et des surprises.
Voilà, avec des vraies surprises et la qualité surtout. Hein, parce que,
alors il y a Biomutante, on peut parler évidemment, qui était la grosse surprise, qui a l'air assez ravissant.
D'ailleurs, tu ne vas pas tester pour demain?
Non, absolument pas. Donc, elle a l'air absolument ravissant et un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de ce qu'on a eu l'habitude de voir.
C'est bien, tu as une peinture mais après, impressionniste.
On n'a pas vu des masses non
plus.
Il
y a un petit côté BGE en fait. Hein.
Ouais. Un peu. BGA aussi.
Mais ouais, une espèce de mélange de jeux de kung-fu,
panda,
avec du tir et en même temps des trucs un peu zarbi, genre cette main mécanique.
C'est ce que j'ai préféré, moi, la main mécanique.
Mais bien sûr, ça tue ça.
C'est tellement stylé.
Ouais, c'est un peu chelou comme jeu, mais ça a l'air.
Tu vois le renard rusé.
Ça a l'air chouette.
Il y a eu ça,
et Battle Chasers.
Et il y a eu un RPG qui t'a filé une claque carrément, tellement c'était vachement bien.
Après, exagérons rien non plus.
Non, mais en termes de système de jeu.
Je trouve que Battle Chasers Night War.
Franchement, t'as adoré ça.
Qui est fait par Joe Madureira, donc qui est l'artiste qui a travaillé sur Darksiders.
Darkside, ouais.
Il est. Le taf. Alors après, moi, étant donné que je suis pas non plus un gros bouffeur de RPG aujourd'hui, me prononcer. J'ai fait Persona 5, mais c'était pour ma culture et au final, je suis ressorti avec un jeu de ouf. Mais c'est juste que j'ai l'impression que vraiment, ils sont allés au fond des choses et qu'ils ont tout pensé de A à Z.
C'est un RPG tour par tour à la japonaise, on va dire.
On va pas dire, c'est un RPG tour par tour à la japonaise avec vraiment tout qui a été parfaitement pensé. Et ça risque d'être un des gros gros jeux de cet automne. Il faudra le surveiller. Et voilà, c'est du côté de chez THQ Nordic qui avait d'autres jeux qui ont l'air sympathiques, mais peut-être plus anglais-allemand, j'ai envie de dire, comme Elex par exemple, qui est un RPG en monde ouvert. Oui, allemand, oui.
Tu sais, les jeux. Du tout allemand.
C'est très pour le marché allemand.
Non, mais très pour le marché allemand, je veux dire. Quand je dis anglais-allemand.
Mais ça, Elex, déjà, c'est
je parle de Elex ou Black Mirror par exemple.
J'aime bien ce genre de truc.
Judo, je vois que tu fronces les sourcils. Ce sont des jeux qui vont beaucoup plaire au marché allemand.
Ok.
Parce qu'ils aiment bien les RPG.
Allemand des marchettes.
Les RPG où les personnages ils marchent un peu de manière rigide avec des menus partout.
Exactement.
Etc.
Je suis d'accord.
Oui, ça les dérange pas.
À 100%.
Nous aussi, un peu.
Bien au contraire.
Eux, par contre, ils aiment bien quand il y a des chiffres partout, des statistiques, etc. Et que c'est super relou pour changer.
Ça, c'est tout à fait ça.
Attention, tu vas tomber dans le.
Tu voudrais que tu joues à Risen ou à Gothic pour comprendre.
Exactement.
Qui sont des gros cartons là-bas et qui sont d'ailleurs les ancêtres un peu de Elex.
Tu veux dire qu'ils sont différents là-bas, c'est ça?
Absolument. donc voilà, ça c'était surtout THQ Nordic quoi, qui nous a.
Et encore, ils n'ont pas montré THQ le Nordic, fameux Darksiders, hein, parce qu'ils ont Darksiders dans les cartons aussi, qui sera probablement présenté l'année prochaine. Du
absolument.
Coup.
Si tout va bien.
Et donc c'est un éditeur qui compte et qui a fait un peu son entrée, je trouve, médiatique cette année à la Gamescom. Voilà.
Absolument.
À côté de ça,
pas mal de jeux indés.
Beaucoup de jeux indés. Je pense que ma frustration, ça aura été d'être passé si vite sur les stands de Devolver notamment. Et deux, trois autres trucs. Voilà.
Donc, c'est pas eux qui ont fait une fête de l'enfer, non? À un moment donné?
Non, non, non. Okay, ils ont par contre.
Non, c'est à l'E3, ça, pardon.
À l'E3, ils ont une façon spéciale de présenter les jeux hors du salon. Ouais, c'est assez marrant. C'est sur le parking d'en face.
Voilà, exactement.
Ouais. Donc, voilà.
Ouais, c'était un petit cru.
Je pense
quoi,
que c'est la dire. Plus mauvaise Gamescom que, en termes d'intérêt, d'annonce, etc., que j'ai faite jusqu'à maintenant. Voilà.
Très bien.
De là à l'enterrer, je crois pas. Je pense que la revanche commence l'année prochaine.
Ah ouais, tu penses qu'il y aura un comeback?
On verra.
De toute façon, il y a des salons qu'on fait ça souvent. Hein, mais disons qu'à décliner, et puis tout d'un coup, ils sont remontés.
Si les prochaines éditions sont à cette hauteur-là, moi, je pense que c'est un salon qui peut devenir ce que ses détracteurs disent qu'il est depuis le départ. C'est-à-dire un salon national, quoi. Voilà.
Bon. Tant que ça marche pour eux, à la limite, ils vont pas se priver. Hein.
Dis-moi qu'il n'est pas national. Dire,
ça serait une grosse défaite quand même.
Oui, mais ça marche super bien pour eux quand même à chaque fois.
Si je suis organisateur d'un salon international et qu'il devient national, je pense que c'est
en termes de rayonnement, tu perds énormément. Quoi. Ça veut dire que tu as moins d'attractivité. Oui,
je pense que je suis pas content. Si le public vient toujours.
Mais ils sont, c'est
pas en retombée médiatique, mais si le public.
Mais le public, il est de plus en plus nombreux chaque année.
Bah voilà, c'est pas qu'ils vont la grandir.
Ça devient un salon nationaliste, il y en a qui seront contents, moi je te le dis. Toujours est-il qu'il y a eu aussi le Tokyo Game Show auquel tu étais avec l'ami Rudy il y a quelques jours, mon cher Julo. On penserait aussi que c'était un peu décevant, malgré quand même quelques petits jeux sympas.
Bah, là c'est pareil, donc ça a commencé avec une
présentation live.
Ah, la conférence PlayStation.
Une conférence PlayStation.
Au moins c'était une vraie conférence.
Oui, qui était de meilleure qualité que celle de Microsoft. C'était des gens comme.
Après, est-ce qu'elle était de qualité? Bon.
Bah, y a eu quelques annonces de jeux dont on n'avait pas entendu parler jusqu'à maintenant.
Y a des annonces. C'est vrai qu'on a fait pas mal de petites annonces après.
Il y a notamment une annonce moi qui m'a vraiment fait plaisir. C'est celle du nouveau Front Mission là, ou enfin qui dit pas son nom.
Left Alive.
Left Alive. Ouais. Et donc j'étais d'autant plus dégoûté de pas pouvoir le voir sur le salon parce qu'il est resté énigmatique du début à la fin. On a su. Grâce à Famitsu un peu après le salon que c'était effectivement parce qu'ils ont eu l'interview immédiatement dans le magazine qui est sorti le lendemain du premier jour qui expliquait que c'était bien un jeu dans l'univers de Front Mission. Donc ça déjà c'est une bonne nouvelle.
Mais
ça n'aura
absolument rien
quand
à
on
voir.
A vu la gueule qu'il avait en plus, enfin je trouve qu'il a il est très,
rappelons, très caractère attrayant. Designer Yoji Shinkawa,
et en plus
caractère design de Yoji Shinkawa, donc ça évidemment ça a échappé à personne. Si. Square Enix aux commandes et tout ça, bref, c'est vraiment un jeu.
Tous les ingrédients pour faire
il y a tout ce qu'il faut pour
des
faire
mécas,
un bon
des
jeu.
Mécaniques d'infiltration,
un
univers futuriste et chaotique dans une espèce de Russie complètement dévasté. Enfin, c'est ouais, c'était. En plus, on n'avait rien.
Vous avez joué à
Front
Mission à l'époque sur Super Nintendo?
Sur PlayStation,
j'y ai joué.
Sur PlayStation,
c'était pas terrible. Sur PlayStation.
Moi, c'est le seul RPG japonais que j'ai terminé.
C'est pas vrai.
C'est pour vous dire.
Là, tu l'as fait en japonais.
J'ai fait en japonais, j'ai tout fini.
En pipant que dalle, du coup.
Ah bah je comprends rien.
Non, mais le système de.
C'est pas très compliqué. Hein, mais
le système de personnalisation des mécas et tout, c'était.
Il y avait rien de très compliqué.
Et ouais, regardez, quoi, il a de la gueule. Donc.
Ah, ça peut être bien, ça. Ouais, ça peut
donc
être
disons que si après on l'avait eu sur le salon, ça aurait tout de suite fait autre chose. Mais là, du coup, sur le salon, avec quoi on s'est retrouvé? Et ben on s'est retrouvé avec, on va dire, une espèce de duel habituel avec Monster Hunter d'un côté et les Yakuza de l'autre, cette fois, parce qu'il y avait trois, non pas un, non pas deux, mais trois jeux. Il y avait Yakuza Kiwami 2, il y avait Yakuza Online, qui est, je pense, à oublier.
Et Okuto Na-
et Okutoga Gotoku.
Ah, ça va être bien, ça, putain.
Voilà, qui a l'air absolument génial.
Le crossover de l'impossible.
Voilà. Mais clairement, les gens, en rentrant sur le salon, couraient tout de suite pour aller faire la queue dans Monster Hunter. C'est devenu, je veux dire, habituel, quoi. Voilà, c'est toujours comme ça.
Bah, d'autant que ça a l'air d'autant plus mérité que Monster Hunter World,
cette fois,
qui arrive sur PS4 et PC et Xbox One en 2018, a l'air absolument sublime.
Oui, c'est un joli jeu. Il innove par rapport au précédent, plus ça, que ça n'a été le cas jusqu'à maintenant. Donc
oui, c'est ça.
C'est
on dirait
que
c'est un tout autre jeu, hein. Franchement.
Non. Quand tu y joues, tu te rends compte que c'est encore
c'est un peu pareil, la mécanique et tout ça. Hein.
C'est plus ou moins la même chose, mais avec cette fois un monde ouvert, des nouvelles mécaniques,
enfin, change tout, en fait.
Des choses qui te donnent l'impression de jouer vraiment un épisode vraiment nouveau, quoi. Donc et puis c'est super joli et tout. Donc
puis il y a le fameux boss là, j'ai oublié le nom, je sais plus comment il l'appelle. Hein.
Oui, je me rappelle plus non
celui
plus.
Celui de l'édition collector là.
Oui, c'est ça, voilà.
Traz, je crois, il s'appelle.
Trazorus.
C'est le Titus,
ce truc là. Le Trazorus.
Moi, honnêtement, ça me donne envie de réessayer la série parce que c'est vrai que ça tournait un petit peu en rond, épisode en épisode. Là, pour le coup, le monde ouvert et cette patte graphique qui change un petit peu, qui sort du cartoon, ça fait quand même.
Même s'il reste les petits chats quand même qui t'accompagnent.
Oui, ils font la soupe.
Toujours là, bien sûr.
Ils ont des lunettes d'aviateur en plus, c'est génial.
Mais on peut dire que c'est le jeu du salon à la fois. En termes comment dire de succès populaire et en termes de qualité aussi de ce qu'il y avait à voir, donc c'est voilà. Mais très clairement
par contre ça manquait beaucoup d'annonces de hardware, on peut pas en avoir tout le temps, mais même pas
ils ont annoncé
l'aperçu du futur comme ils disaient à l'époque
de la Vita 2, c'est ça,
voilà, Vita 2 ou PS5.
Non mais alors c'est la Vita,
c'est con,
c'est probablement
moi je souhaitais ça pendant la conférence Sony, tu vois, genre un aperçu du futur, voilà.
Cela dit, ça doit être la seule, parce que vous parliez de la PS Vita, moment de l'année où on entend parler de la PS Vita quand même.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont sur PS4 et PS Vita, voilà. Temps, genre Dragon's
donc
Con, t'entends
envoyer une mention de la PS Vita, etc. Et sur le salon lui-même, c'est un salon
plein de gens.
Alors oui, alors effectivement les jours publics c'est impraticable,
plein d'hôtesses,
beaucoup de monde, mais c'est quand même un salon qui est plus petit que les autres, hein. Qui est pas aussi fascinant qu'il l'a été il y a quelques années pendant
il y a toujours vachement de queue sur certains trucs quand même.
Malgré tout, on peut dire qu'on ressent quand même tout de même ce qu'on ressent depuis quelques années maintenant, enfin le retour un peu en forme du jeu vidéo japonais.
Quelques emmenés.
Et par exemple aussi la part de jeux mobiles est toujours importante, mais c'est plus du tout comme avant. À l'époque on avait quasiment un hall entier qui était dédié aux jeux mobiles. Et cette fois
ça change vite là-bas.
Ça se mélange un peu avec la réalité virtuelle aussi, non ?
Exactement, réalité virtuelle aussi. Et là maintenant en fait c'est-à-dire c'est les gros éditeurs comme Square Enix qui développent leurs propres jeux mobiles maintenant, là où c'était des spécialistes du jeu mobile qui étaient rentrés comme des nouveaux dragons et qui bouffaient tout le reste du jeu vidéo, et donc du coup ça s'est un peu équilibré, c'est moins compartimenté, quoi.
Notamment avec Love Plus Every de la part de Konami qui a juste chamboulé Rudy, qui est prêt
à voir la vidéo.
Son téléphone portable,
Rudy, en Rudy, bon japonais entre guillemets, parce que maintenant il habite au Japon, il joue énormément sur mobile, ça y est.
Mais c'est symptomatique du marché japonais.
Oui, bien sûr, c'est comme ça.
Je pense que tu fais tout avec ton mobile là-bas.
Tu le vois dans les charts de vente de consoles aussi.
Mais malgré tout, on sent quand même que sur les consoles traditionnelles, etc., il y a un élan nouveau quand même. Mais voilà, ça a pas fait de ce TGS une bonne édition pour autant, quoi. Voilà, c'était assez moyen.
Mais très
moyen
japonais.
Moyen sans plus.
Et très japonais, forcément. Beaucoup d'expériences qui sont typiquement japonaises et qui plaisent aux japonais.
C'est vrai qu'il fut un temps où je faisais des rendez-vous Assassin's Creed au TGS. C'était il y a bien longtemps. Mais...
Non, parce qu'il y a des jeux dont on n'a pas parlé, du genre 13 Sentinels Aegis Rim, le prochain VanillaWare.
Oui,
par exemple.
Trailer,
mais il n'était pas jouable.
Non, alors que ça fait deux ans qu'il a été annoncé.
Non, mais
c'est
oui,
TGS 2015,
c'est pas
et malheureusement. Non, ce qui était nouveau, c'est les images qui ont été dévoilées parce qu'il n'y avait pas eu de trailer aussi.
Il n'était pas sur le salon.
C'était juste pendant la conférence.
Il y avait un robot sur le stand de Sega. Avec,
ça a l'air de magnifique.
Ça, c'est super joli. Ouais. Et alors, j'ai joué au nouveau jeu aussi du créateur de SOS de Final Escape. Donc, ce jeu où on doit survivre à un tremblement de terre au Japon. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était très original à l'époque.
Bah, si, Zetai Zetsumei, je sais pas quoi là.
Exactement. Zetai Zetsumei.
Je me taille, je vais prendre du shit.
Voilà, c'est ça. Toshi.
Je l'avais appelé comme ça.
Du Toshi.
Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je m'en souviens en fait.
Ah, c'est un bon moyen de me technique.
Bah, bien sûr.
Ouais, c'est
comme ça que je vais prendre du Toshi.
Je je me rappelais pas.
Apprenez le japonais avec la méthode Traz.
Bien sûr, ça tue.
Donc ça a l'air cool, mais c'est pareil, c'était pas là quoi. Donc c'était pas là. Parmi les jeux qui étaient là, il y avait donc le nouveau jeu donc de ce gars-là, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui était pas terrible. J'étais un peu déçu. Ouais. Le concept est génial, vous connaissez le concept ?
Oui, tu l'as échappé pendant que Ultraman est en train d'affronter Godzilla.
En fait, c'est pareil, ça reste un jeu de survie, sauf que c'est pas un tremblement de terre qui touche ta ville, c'est que les fameux monstres géants, etc., qu'on voit dans toutes les séries, d'ailleurs toutes les séries sont mélangées.
Arrivés en bloc.
T'as Godzilla, Evangelion, Ultraman et tout. Bah en fait, ça arrive vraiment, et donc ils écrasent tout sur leur passage, quoi. Ils cassent les villes, quoi. Et donc toi, tu dois survivre là-dedans.
Ils aiment bien le catastrophisme.
C'est très marrant, mais après, voilà, comme visuellement, visiblement, t'étais très déçu.
Ouais.
Donc, et tu l'as pas dit, bien sûr.
Si, si,
il a dit ça. Ah, c'est ça, t'es pas sorti ravi de la démonstration.
Non, j'étais un peu déçu. Ouais.
Bon, enfin bref, le TGS.
C'était un TGS pas. Je dirais qu'il est pas aussi raté que la Gamescom.
Cru moyen, on va dire.
Mais ouais, c'est moyen plus, quoi.
Moyen plus.
Bon, il y avait Rudy, hein, c'était
déjà. Toi, Thomas, t'étais plutôt satisfait, j'avais l'impression.
Oui, effectivement, je vois, à l'inverse.
Mais toi, t'as tous les jeux japonais qui déferlent, donc
je prends tout. L'obsession de Traz qui découvre les obscurs jeux venus du Japon.
Exactement.
Mais effectivement, moi, ça m'a rassuré un petit peu sur l'état du jeu japonais et sur sa manière, en fait, de fonctionner. Non pas en vase clos, mais en tout cas à garder certaines thématiques et certaines manières de fonctionner qui lui sont propres, et même s'ils se nourrissent d'influences occidentales puisque maintenant ils n'ont plus le choix, il y a quand même une spécificité de tous les jeux qu'on a vus. T'en as cité quelques-uns, t'as eu du Love Plus, t'as eu
Summer Lesson
avec Chisato, etc. Le Virtualone auquel tu as pu jouer, quel premier épisode en date depuis très longtemps.
Je suis très content de voir un nouveau Virtualone, mais alors la sauce à laquelle ils l'ont cuisiné pour lui redonner une nouvelle jeunesse, c'est un peu...
Oui, t'as l'air dire que c'était,
nouveau goût, tu veux dire.
C'était très facilité en fait par rapport
au
gameplay des anciens.
Tu joues pas avec deux sticks.
J'ai passé des moments fabuleux sur Dreamcast dessus.
N'oubliez pas qu'il y avait aussi Saturn.
On est content de revoir.
C'est l'arcade alors, ils en faisaient quoi, bande de bâtards.
On voit quand même que le jeu vidéo japonais continue de produire des ovnis comme ça qu'on retrouvera nulle part ailleurs et qu'aucun studio occidental ne s'aventurerait à tenter. Enfin, il y a des expérimentations qui ne sont possibles qu'au Japon parce que c'est un marché très particulier. Moi, ça m'a rassuré là-dessus de voir une déferlante de jeux bizarres, de jeux what the fuck, de trucs complètement improbables qui ne sortiront jamais ici, qu'il faudra faire en japonais. Mais de ce côté-là, pour moi, ça a été un cru plutôt intéressant pour le coup. Et ça me donne envie de tester tout ça.
C'est clairement pas la pire édition de ces dernières années. Ça, c'est
quand t'as Metal Gear.
C'est vrai.
Quand t'as Metal Gear. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais.
Je sais pas.
Metal Gear Survive,
si,
il était là. Ouais.
Ah ouais,
il y avait pas mal de monde.
Je l'ai pas vu.
Bah, c'est normal, j'ai essayé à l'E3, à la Gamescom. Donc,
t'as bien du monde pour l'essayer au TGS,
ouais ? Ouais, tout à fait. Ça attirait pas mal de monde. En même temps les jours publics il y a du monde partout, et sur les jours pro il y avait la queue pour y jouer et tout.
D'accord.
C'était pas énorme, c'est le, on va dire, le
d'accord, le
truc qui attise un peu la curiosité de tout le monde sur le stand Konami, c'était plutôt Zoé, quoi.
Ah oui, le remake, PS4. Pourquoi de Zoé 2,
le remake du remake
qui vous a pas transporté non plus, hein, a priori.
Ah bah Rudy a trouvé ça magnifique en y jouant sur la télé trop, et bah, vraiment pas terrible en VR.
En VR, ouais.
Ouais. Bon, on reste avec du Konami alors, messieurs, puisque on va passer au troisième thème du podcast.
Le football.
Le football, absolument. Voilà, c'est un passionnant.
Il y a un match ce soir.
Il y a un match ce soir pour Julo, qui d'ailleurs est déjà en retard. Ah, c'est dommage, tu pourras pas y être. C'est bête pour toi. C'est le match FIFA PES comme tous les ans, évidemment.
Comme chaque année.
FIFA 18 d'un côté, PES 2018 de l'autre. Et bah, on a joué aux deux.
Et qui gagne alors?
Et cette année, il y a un gagnant. Autant sur les années précédentes, les deux, trois dernières années, on était plus pour FIFA parce que son contenu était bien plus.
Et puis les années d'avant, on était
riche.
Nettement plus pour FIFA.
Voilà. Mais c'était surtout contenu qui sauvait FIFA, parce qu'en termes de jeu, on voyait qu'il n'y avait pas spécialement de grosses évolutions pendant que PES, lui, continuait à grimper. Et cette année, PES a fait un bond en avant. Vraiment très très important. J'ai du mal à le décrire.
J'ai du mal à réaliser à quel point.
Autrement que par le test que j'ai écrit.
Mais en plus, enfin, je veux dire, ils ont dit depuis le départ. Et moi, je me rappelle à l'E3, je t'avais prévenu. Je t'ai dit putain, c'est pas du bullshit. Ils ont vraiment. Ils ont changé tellement de trucs.
Plein de trucs.
Bah, ils ont retapé le système de collision, les animations sont différentes. Ouais. Il y a tellement de choses qui ont changé.
Ils avaient prévu, je crois, l'année dernière. Oui, cette version-là, c'est pas la version machin, mais l'année prochaine, vous verrez.
Ah, ça, je me rappelle pas.
Moi, je me souviens qu'ils avaient dit un truc comme ça.
Ouais, mais tu sais, le nombre de fois, les développeurs te disent ça.
Ouais, voilà.
Mais attendez, cette fois, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Alors, TKTBB.
Oui, mais encore une fois, travaille à la japonaise. Ils y vont petit à petit. Comme en Formule 1 avec Honda, là.
Ils ont arrêté leur...
Il faut que tu passes de la formule.
Non, non, mais c'est intéressant. Tu sais pourquoi? Ils ont quand même arrêté leur partenariat avec McLaren, qui est quand même.
Est-ce que tu es obligé?
Oh putain, non.
Laissez-le finir sa parole.
Non, attends,
putain.
Exactement. Ils ont cassé le contrat. McLaren a dit non, on veut plus bosser avec vous, avec Honda, parce qu'on n'y arrive pas. Et alors qu'ils avaient un contrat sur 10 ans. Hein. Au bout de la troisième année, ils arrêtent. Pourquoi? Parce que les Japonais ont une culture tellement différente qu'ils n'arrivent pas à bosser avec l'écurie anglaise, donc machin. Culture tellement différente qu'effectivement, ben, ça colle pas, quoi. Et au bout de 3 ans, bah, ils n'arrivent pas. Et Honda, eux, juste après, on dit mais oui, mais c'est chez McLaren, ils veulent pas écouter ce qu'on dit, machin. Et McLaren dit oui, mais c'est vous qui faites pas ce qu'on veut, machin, etc. Donc c'est incompatibilité totale. Et là, j'ai l'impression que c'est pareil. Il faut leur laisser le temps. Et Honda a dit on en a là pour 10 ans. On veut faire un moteur performant d'ici 10 ans. On a 10 ans devant nous. McLaren a dit bah, oui, mais nous, non. Voilà.
D'accord.
C'était juste, comme tu dis, parabole, c'était, pour
oui,
expliquer
très
que
bah,
voilà,
les méthodes
ils vont petit
sont
à petit.
Très, très différentes.
C'est vraiment, c'est une autre culture complètement à part. Quoi.
En tout cas, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur cette refonte et ils ouais, savaient voilà, qu'elle arrivait cette année depuis 2-3 ans, effectivement.
Voilà, exactement.
Voilà. Et au final,
cette année, ça paye. Hein,
si on fait un comparo point par point. Alors, on va commencer avec quoi? On va commencer avec le rendu global, on va dire
le rendu,
le visuel. Qui
rendu l'argent ou...
De ce côté-là, alors FIFA est très joli, hein. Vraiment, il est splendide. Oui, oui. Ils ont fait des efforts au niveau des modélisations. Ouais, ouais. Mais PES a un gros avantage, je pense.
Bah, quand on compare vraiment profil-profil, face-face entre deux joueurs, oui, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. En termes
les gabarits,
de modélisation,
les visages,
de gabarits, de détails physiques.
Je trouve que ça dépend vachement des joueurs, moi.
Non, vraiment, hein, vraiment, si tu regardes bien.
Ah,
les
et le rendu même de la peau aussi, par moment.
Ils sont quand même devant, Konami. Hein,
et puis, Konami a ajouté un truc cette année qui est les expressions faciales, vraiment. Vraiment, expression faciale, c'est plus des zombies maintenant. Ils ont vraiment, quand ils grimacent, quand ils sont contents,
oui,
etc.,
ça.
On a l'impression que on a un vrai Neymar en train de se marrer ou en train de grimacer.
Il est content, il est au PSG maintenant.
Ouais, et
un million d'euros par jour.
Dans FIFA, il y a un rendu face up en fait quand ils rigolent. Tu vois, ils ont un petit peu les dents comme ça, qui font ça, et t'as l'impression qu'ils ont tous le même sourire, et il est un peu chelou. Mais bref, pour moi, ça rajoute un petit truc, même si c'est pas très important. Après, en termes d'ambiance, FIFA est des années au-dessus, hein, en termes d'ambiance.
De contenu aussi.
Le contenu et l'enrobage, surtout. Parce que quand on fait un match de FIFA, on a droit à des stats, on a droit à des présentations des joueurs, des équipes qui, quand elles sont de la même ligue, sont totalement personnalisées. Genre première ligue, vous avez l'impression vraiment que vous allez mater un match de première ligue. Vous avez toujours ce qu'il faut pour vous rappeler, pour vous faire croire que vous êtes dans une retransmission télé, quoi. PES fait des petits efforts de ce côté-là, ça va un petit peu mieux.
Ah, c'est les angles de caméra.
C'est un poil mieux au niveau des angles de caméra, des replays.
Mais c'est vrai que c'est pas niveau.
Mais là, FIFA, FIFA, il est piétine de ce côté-là. Côté commentaire,
il n'y a pas photo comme toujours. Hein.
Ah, il n'y a pas photo et en même temps, moi je suis sur FIFA.
Darren Tulette, c'est pas possible.
Ouais. Alors, Darren Tulette, je peux pas, mais Hervé Matou, il est bon, c'est vrai, j'avoue.
Alors, Margoton et Tulette, donc pour PES.
Margoton, pardon.
Margoton essaye de s'en sortir, mais on sent toujours que c'est un petit peu forcé au niveau de l'addiction. Et,
oui, mais ça me dérange pas trop.
Et surtout, ça se répète énormément. Et parfois, ce n'est pas du tout calé. Dans les
ouais,
trucs
ça,
par
ça,
exemple
inhérent,
on
foot,
va te dire il y a une balle qui sort en sortie de but, ah bah c'est dommage, ça aurait pu faire 2-0, il y a 4-1 au score, mais c'est pas grave. Et du côté de FIFA,
ah oui, c'était gros bug quand même aussi, il y a ça.
Matou essaie de s'en sortir, ils lui ont fait faire un truc. J'ai cru voir il y a pas très longtemps qu'ils lui avaient fait enregistrer plus de 200 fois sur des joueurs spécifiques des Neymar comme ça ou ça dure
gaffe à Poufy, il vient de sursauter
ou ça dure pendant 10 secondes où il est en train d'hurler le nom du joueur. Sauf que c'est pas du tout dans le bon ton par rapport à l'action qui se passe à l'écran, donc
c'est
du coup ça
exagéré,
sort un peu du truc.
C'est surjoué à fond.
Pierre Ménès, qui est quelqu'un que j'aime bien, je trouve que c'est un excellent consultant, mais dans le rôle du commentateur, je n'y arrive pas. Je trouve que ses interventions sont pas géniales, donc je mettrai un match nul pour les commentaires, mais pas dans le match nul, quoi. Le match nul un peu
match nul de la défaite,
voilà, un peu foireux. De ce côté là c'est pas génial. Après, en termes de mode de jeu, évidemment FIFA est largement au-dessus.
C'est normal, hein.
Et puis il y a l'aventure, quoi, mine de rien, hein.
L'aventure qui est pas géniale, d'autant qu'il y a ce que j'ai évoqué dans le test, cette histoire de localisation française où vous avez un doublage français, mais sauf que quand c'est Thierry Henry, Rio Ferdinand, je sais plus quel autre joueur on croit, Antoine Griezmann, bah il vous parle en anglais et c'est sous-titré, et donc vous comprenez pas trop pourquoi. C'est un peu bizarre.
Bah, il faut lire, voilà, c'est tout.
Mais c'est vrai qu'après, bon, même si ça fait un peu série B et ça fait un peu Gaulle, vous savez, cette trilogie foot cinématographique un peu moyenne, ça reste agréable pour se changer un peu les idées, se changer un peu des modes carrière et autres trucs en solo.
Et l'accepteur,
moi,
alors,
fiston,
quoi
il adore.
Mais bien sûr, c'est normal.
Il adore, enfin, il a adoré dans le premier. Il ouais. est impatient.
Bah, il va kiffer la deuxième aussi. Hein.
En fait, mon fils a décidé de jouer à PES cette année.
Il adore. Mm-hmm. Il connaît pas Alex Hunter.
Et par contre, il veut FIFA quand même pour faire l'aventure.
Bah, bien
2,
sûr.
Quoi.
Ça ouais. se respecte. Ça se respecte absolument. Donc voilà, il y a l'aventure.
Mon fils, c'est bon.
Ouais, ton fils. Il y a l'aventure.
Ça, je te pète la gueule.
Il y a les différents modes carrière en solo avec un joueur ou avec.
Et il y a Neymar dans
le manager.
Dans le vestiaire du PSG quand tu joues l'aventure.
Ah ouais, parce que tu peux te balader dans plusieurs clubs du monde.
Ça te faisait en fait.
T'as évidemment le jeu en ligne, t'as le fut qui s'est encore enrichi d'un nouveau mode clash des équipes. Enfin, c'est gargantuesque du côté de FIFA. Du côté PES, on essaie de faire des efforts, hein, mais je crois que malheureusement, il va falloir quand même y songer à un moment à faire un peu plus, notamment pour essayer de refondre un petit peu la Master League.
Mais c'est dit, chaque chose en son temps. Attends, 2019.
Mais bon, les consommateurs, ils attendent pas. Hein.
Oh, les consommateurs, ils veulent tout de suite,
les
grands mots.
Ils ont remis le mode random selection qui est plutôt sympa. Évidemment, il y a le mode coopération qui permet d'avoir des stats individuelles à la
ça,
fin.
C'est génial.
À la ouais, mi-temps,
ça, c'est
en temps réel.
Ça, j'aime bien.
Qui est vraiment
ça permet de voir
super,
que plus nul et que
même
je
si après en ligne, c'est un sacré bordel pour essayer de fonder des clans. Je pense qu'il va falloir des tutos pour comprendre comment on fait pour fonder un clan, inviter des gens et pouvoir aller ensuite aller affronter des gens.
Les gens lui ont beaucoup reproché son interface aussi.
Oui, face un peu
Allemagne de l'Est
ouais voilà Allemagne de l'Est absolument
un peu
communiste RDA, un peu stalinienne qui est bon
mais moi je trouve
très rigide
soit...
si quand même c'est rigide c'est austère
pour les compos et tout je trouve ça bien fait moi bon.
Oui mais c'est un peu austère quand même
d'accord
voilà donc commence pas et au niveau du gameplay
non bah je voulais en caser une mais j'ai compris que je pouvais pas
non Charles Cazé 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 TGS toi toi tu t'amuses avec Rudy
c'est parce que t'as parlé de stalinisme tu l'as touché
exactement. Ah oui c'est vrai
au plus profond de son être politique
donc au niveau gameplay en revanche bah PES c'est quasi un sans faute
ouais
en termes de vitesse et en termes de rythme on sent que il y a ça a un peu rétrogradé et que tout n'est pas simple, tout n'est pas facile. Après,
tout
bien
pas
sûr,
si facile,
les joueurs qui vont maîtriser le jeu, évidemment, pourront enchaîner les passes, mais il va falloir apprendre à faire bien les contrôles, à bien se placer. Il y a toujours un mélange en fait de réalisme, on va dire, dans la construction. Et d'un autre côté, on peut faire des caouettes de 25 mètres qui partent à Mach 2, mais en même temps, parce que il faut créer une sensation de spectacle un petit peu dans le jeu. Tout en gardant la notion de ça reste du foot et il faut essayer que ça ne soit pas quelque chose de trop simple. C'est un équilibre qui est très fragile, hein, l'attaque-défense, et je pense que PES réussit beaucoup mieux de ce côté-là que FIFA, où en deux passes on peut se retrouver devant le gardien.
Mais justement, il paraît qu'il y a eu
où
un
on peut faire du tiki-taka en triangle comme ça et rendre quelqu'un complètement fou. Super facilement où les gardiens visiblement rendent cinglés la plupart des joueurs pro notamment Rocky de l'équipe Vitality qui l'a signalé il n'y a pas très longtemps sur Twitter qui n'était pas très content de la façon dont on pouvait transformer les défenses en gruyère dans FIFA donc voilà FIFA m'a donné cette impression
y a des problèmes en défense alors dans FIFA là, j'en ai eu plus que de raison là. C'était... Ouais.
Mais il n'y a pas eu un patch récemment
je me sentais comme une merde
alors le patch
de ralentir
au
un
moment
petit
où
peu
on enregistre le jeu n'est toujours pas sorti
d'accord
il est en EA Access sur Xbox One.
C'est pour ça.
Donc nous on a la version PS4, on verra quand le patch va arriver sur
effectif,
PS4
ouais.
Pour voir s'ils ont réglé les problèmes des gardiens et surtout les problèmes des défenses et surtout des milieux qui sont absolument pas denses.
Les problèmes des places aussi.
Il y a absolument vraiment aucune densité, on peut sauter les lignes à une vitesse folle et c'est assez décevant de ce côté-là parce que FIFA
bah c'est du 5 contre 5, c'est pas grave.
FIFA reste quand même un jeu qui offre énormément de possibilités, qui a des supers animations, qui a un bon moteur.
À regarder, c'est très agréable en tout
mais
cas.
Mais t'as l'impression que ouais, ça balle.
Moi j'aime bien.
Sa balle n'a pas une physique géniale et que
Sébastien,
tu peux faire
balle.
Ce que tu veux. Voilà.
Ok.
De quoi
non, rien,
j'ai Sébastien sa balle.
Ok, d'accord. Très bien.
Bah écoute, c'est génial ce que t'as raconté sur FIFA et PES.
Mais oui, tu as joué aussi toi, donc tu
ouais, mais j'étais pulvérisé d'ailleurs à PES.
Ah
ouais temps. J'étais massacré la tête.
Pas sûr, très.
Mais si on parlait d'Alix, c'est qui t'a mis une pâtée? Non.
Ah okay. Oui, Alix qui m'a défoncé. Chocobon Blanc qui est passé aussi, il m'a mis des pétés.
Des pétés.
Tout le monde me met des volets de toute manière.
Tu roules dessus par tout le monde.
Ah, moi je suis devenu une serpillère. Je suis devenu la Christine de Viège en cours du jeu de foot. Tout le monde peut faire ce qu'il veut de moi, mais je me vengerai en mode coop.
Exactement.
Sur PES et peut-être aussi sur FIFA d'ailleurs. Mais là pour l'instant, oui, c'est assez désastreux.
Attends, la saison va reprendre. Hein. On va faire des matchs et des tableaux Excel et tout.
Ouais, tout ce que tu vas faire, c'est craquer au bout de la 70e et te faire expulser 4 joueurs. Et...
Exactement.
Et tirer. Et voilà.
Non, t'as remarqué, je fais plus de.
J'ai aucun mal à y croire.
Plus temps que qu'avant. Ah.
Bon, enfin bon, bref, pour nous, l'avantage va clairement
à
PES cette année. C'est pas. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Exactement. Il y a des remontes à date de temps en temps.
La roue tourne à tourner, là, tu veux dire.
Exactement.
Exactement, la roue tourne, tournera un jour.
Et là, de ce côté-là, PES
c'est
a bien
Ribéry, c'est
un,
la roue tourne qui tourne.
Ouais, la roue tourne va tourner. Ouais.
Non, la roue tourne va retourner.
Hein, non, va tourner.
Ouais, bon, ah bon toi.
Ah merde, il a pété aussi loin.
L'exégèse grammaticale de Ribéry.
Je vais être choqué là.
Arrêtez de vous battre alors, s'il vous plaît. Bon, bah tout ça pour dire.
J'ai être déçu et choqué.
Que on verra ça plus tard, hein, Julo, pour refaire des matchs dessus.
Ah, moi je veux plus jouer.
On refait le match.
N'importe quoi.
De quoi? Qu'est-ce que tu dis,
Il a juste dit on refait le match.
C'est tout.
Mais non, c'est toi qui as dit je veux plus jouer à PES, c'est ça que t'as dit?
Non, je veux plus jouer avec toi.
Ah, pourquoi?
Bah vous jouez ensemble alors, c'est tout, c'est très bien comme ça.
Mais Plume, il est gentil, t'as juste envie de.
Non, mais il gagne tout le temps, donc moi je veux jouer contre
lui.
Alors que
je l'ai pulvérisé.
Merde, hein, franchement.
C'est pour ça.
C'est ça qui doit être vraiment désastreux pour toi.
Ouais.
Quant au PSG, on en parle ou pas? Non.
Bon, on en parlera tout à l'heure quand Julo sera au Parc des Princes, n'est-ce pas, mon cher Julo?
Je hurlerai ma race.
Mais là, c'est le moment de nous dire. Adieu.
Oh, adieu.
Ce n'est qu'un au revoir,
bien sûr.
Et oui, ce n'est qu'un au revoir, évidemment, parce que c'est ainsi que se conclut ce podcast
de la rentrée,
ce premier podcast
scolaire
de la nouvelle saison, des podcasts de Gameblog. Évidemment.
Évidemment.
Évidemment. Julo.
Oui.
Normalement,
on se retrouve la semaine prochaine.
T'es censé chanter du France Gall, toi.
Oui, moi, c'est ce que j'attendais aussi, c'est clair.
Ah, mais évidemment. Non, mais à chaque fois que je le fais, on dit oh non.
Ah,
non,
c'est quand tu chantes.
Moi, j'ai envie qu'on me dise oui maintenant.
Non, c'est quand tu chantes Simon Si que je dis non. Sinon, évidemment, je veux bien.
Évidemment.
Non, bah en fait, non, on va éviter.
J'ai été sûr.
Évidemment, vous pouvez laisser des commentaires sous la news de ce podcast si pour nous dire ce que vous avez pensé.
Ah là là, c'était vraiment de la merde.
Si on fait pitié ou pas.
Gameblog, c'est plus ce que c'était.
On a attendu tout l'été pour ça, putain.
Tout ça pour ça.
Et de tous les thèmes
vous faire foutre.
De tous les thèmes qu'on a abordés, évidemment. N'hésitez pas, les pouces bleus sur YouTube.
Dites-nous ce que vous pensez de Thomas, s'il fait trottinette ou si c'est un génie mental.
Les likes partout. Retweet, plus follow, plus comment si vous voulez gagner Julo.
Plus RTR.
Ce genre de choses, quoi, tout bêtement, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Mais d'abord, on fait quand même un gros bisou à Romain qui vient d'être papa.
Voilà. Ah merde, absolument. Ça veut pas dire. Non, je déconne.
Ah ouais, c'est vrai, il a accueilli la petite Traz. Parce qu'on
voilà.
On a beaucoup fait pression pour que.
Sur deuxième prénom, c'est Traz.
Cette jeune enfant ait le prénom Traz.
Elle s'appelle Trazine, du coup.
Voilà. Deuxième prénom, c'est Traz.
Trazine.
C'est ouf.
Non, Traz tout court, on l'a dit Traz. Hein.
Oui, Traz.
Traz voilà. Oui, ouais.
C'est que son deuxième prénom, en fait, je crois. Mais...
Ouais, il me semble aussi. Voilà. Entre guillemets, je sais pas.
Entre guillemets.
À moins que c'était une blague.
Je me demande aussi si c'était
une blague. Blague. Ou pas.
Quoi qu'il en soit, on embrasse Romain, évidemment, qu'on espère revoir très vite.
Quoi qu'il en fût.
Mais là, c'est pas... on va essayer quand même de s'arranger pour qu'il profite un peu de son enfant.
Exactement. Hein,
on va voir. Il n'a pas profité de son enfance déjà.
Voilà, il n'a pas profité de son enfance, donc forcément, il faut profiter de quelque chose. Puis il profite pas trop de la rédac avec Traz qui fait toujours des conneries.
Exactement.
Bref. On se retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait.
Avec le sourire, avec la patate.
Comme d'habitude.
Ouais.
D'accord, cool.
Absolument.
Et avec PES et FIFA, et on dira que je t'ai pulvérisé 10 fois de suite encore.
Bah, tiens, on va prendre les paris. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis,
gros bisous. D'ici là, jouez bien, dormez bien, mangez bien. Et
ciao.
Faites pas
et, voilà. Et sortez couverts. Ciao.
Ciao.
Ciao.